à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour le podcast hebdomadaire de la rédac. Aujourd'hui, podcast numéro 484, on va parler principalement de Kingdom Hearts 3 qui vient de sortir, dont on a publié le test en temps et en heure, j'ai envie de dire. Félicitations à Philippe qui nous rejoint donc pour parler de Kingdom Hearts. Ça va Philippe?
Très bien, très bien.
Pas trop crevé?
Un petit peu, hein. 30 heures bon. De jeu en un week-end.
Ah, c'est pas mal.
Ouais.
Joli score.
Ouais,
joli
merci,
score.
Merci Square Enix.
Bah, merci à toi et on remerciera Square Enix tout à l'heure. Ouais. On vous expliquera pourquoi. On va également parler de Metroid Prime 4 qui a été annulé avec Thomas. Ça va Thomas?
Bah, ça va, sauf qu'il n'a pas été annulé, mais on en reparlera tout à l'heure évidemment.
Exactement, je vais un peu vite en besogne puisqu'il a été rebooté.
À moins que tu saches peut-être des choses que nous ignorons.
Je sais des choses, mais je ne peux pas tout dire.
Intéressant, voilà. Scoop à venir.
Voilà, mais bien sûr, je ne sais pas autant de choses que Plume qui lui sait tout, surtout.
À peu près.
Bah, je sais pas, tu la ramènes tout le temps, donc j'imagine que tu sais tout sur tout.
Bah, bah oui, alors on va dire que c'est ça.
Okay. Nous sommes donc plusieurs à le penser.
On est plus d'un, effectivement. On est nombreux, on va dire. On pense tous ça.
Ok, voilà. D'accord. Pas de
allez, donc on va commencer bien sûr avec nos rubriques habituelles, le win, le fail. Il y a 10 ans sur Gameblog, on terminera avec un anniversaire et même un petit hors-jeu, évidemment. Mais en attendant, donc, de parler de tout ça, on commence avec le win. Et c'est à toi, Thomas, que je laisse la parole parce que tu vas nous dire ce qui a winné cette semaine.
Et oui. C'est Sega qui a winné pour le coup, et voilà. C'est Romain qui nous en parlait. Et pour autant, il ne s'agit pas de Shenmue pour une fois. Non, il va s'agir un petit peu de rétro gaming, puisque vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années, Sega continue d'exploiter ses vieilles licences et ses jeux rétro en republiant sous le label Sega Ages des jeux comme Sonic, les premiers Phantasy Star, etc., qui sortaient d'abord sur smartphone et qui arrivent petit à petit sur Switch. Et la nouvelle de la semaine, c'est Yosuke Okunari, un producteur chez Sega, qui s'est entretenu récemment et qui déclarait que peut-être qu'à l'avenir, des jeux qui n'avaient pas été traduits à l'époque seraient localisés pour les occidentaux. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on les aura forcément en français, mais il y a peut-être des jeux qui étaient exclusifs au Japon qui pourraient du coup arriver chez nous.
Ah bah moi j'en ai un.
Si ah bah moi j'en ai deux.
Si je peux voter, c'est Sega Gaga. Direct.
Et bah moi aussi, c'est le premier auquel j'ai pensé.
Sega Gaga, je le veux dire.
Pensez que c'est vraiment suffisamment grand public pour que.
Ah non, on dit ce qu'on veut.
C'est purement égoïste. On a dit. Je vote pour Sega Gaga.
Et toi, vas-y, parce que.
Moi, je vote pour les scénarios oubliés de Shining Force 3.
Mais
Shining Force 3 de manière générale, il faut qu'il soit absolument réédité. Puis voilà, c'est tout. Il faut que les gens découvrent ce jeu.
Et justement, ça tombe bien puisque Romain nous précisait que le fait de rééditer comme ça certains titres, ça ne se limiterait pas forcément aux consoles 8 et 16 bits de Sega. Donc on peut se prendre à rêver de voir revenir des jeux.
Ah oui, des jeux Saturn, ouais,
Saturn
ça serait génial.
Et des jeux Dreamcast évidemment.
Dragon Force.
Il y a eu tellement d'expérimentations sur Dreamcast qui ne sont malheureusement jamais arrivées chez nous de la part de Sega. Donc voilà, faites-le savoir, écrivez à Sega, inondez-les.
Il y a les Sakura Taisen aussi qu'on a jamais vu.
Il y a évidemment les Sakura Taisen. Voilà. Que nous n'avons jamais eu, mis à part l'épisode qui se passait à Paris.
Qui ah bon devait... Il était sorti chez nous.
Il était sorti chez nous, okay. Je crois qu'on en a eu un en tout et pour tout, Sakura Taisen, sachant que le prochain, a priori, devrait être localisé. En tout cas, voilà une bonne nouvelle pour les fans de Sega qui ont pu peut-être jouer à ces jeux à l'époque, mais en japonais. Donc,
voilà, un win de vieux con, une fois de pas
ouais. Ça, ouais, mais voilà. On serait... moi, Sega Gaga, je serais ravi de pouvoir y jouer et de comprendre effectivement ce qui
mais
se passe.
Mais cela dit, je me demande si Sega Gaga, il n'y a pas une traduction sur une version émulée
mais
sur Internet.
Mais il y a toujours des traductions.
Ouais, il faut jouer sur PC, tout ça.
Tu peux toujours trouver ça.
C'est vrai que. Tu mets ton disque, tu mets un patch, hop, merci, c'est traduit, on n'en parle plus, ça existe pour tous les jeux maintenant.
T'es un pirate, toi ?
Oui, complètement.
Mais tu sais tout sur tout ?
Non.
Et là, ce serait évidemment sur Switch.
Bon, et là, puisque t'as pris la parole, Plume, tu vas la garder, tu
absolument.
Vas nous parler de ce qui a failé cette semaine.
C'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un fail, c'est plutôt quelque chose de très triste.
Une triste nouvelle, effectivement, oui. Cette semaine.
C'est le magazine The Game qui s'arrête, malheureusement. On a appris cette semaine que le magazine qui était piloté par l'ami Vincent Homs, c'était le dernier numéro qui était paru. D'ailleurs, il est disponible gratuitement en PDF à cette adresse que je vais vous dicter, que vous allez noter. Très bien. Non, c'est dans la news, évidemment, parce que c'est un peu long de dire www.thegame. En plus, il est tiré
c'est
tout.
Pas, c'est pas si compliqué.
Bref. T'as oublié HTTPS, en plus.
Ouais, en plus,
/the-game/tg28.pdf.
Ouais, TG, ça tombe bien, c'est ce que j'ai envie de te dire.
Ouais.
Mais voilà, donc malheureusement.
Non, mais franchement, mais où est le respect?
Il y en a plus.
Il est mort, le respect.
Moi, je l'ai cherché à un moment et j'ai pas trouvé.
Il a déjà réparti au moins. Ça, c'est.
Ouais, mais donc ça nous rend assez triste pour Vincent, évidemment, qui est un très très vieux pote et un monsieur qui fait du très bon travail dans le jeu vidéo depuis des années, mais aussi pour toutes les personnes qui travaillent. Je pense à Raphaël, à Benoît, à Philippe, des tas de gens avec qui j'ai pu travailler à l'époque de Future France et d'Hello Media. Et il y en a encore d'autres hein, parmi les pigistes, que ce soit, bah voilà, on les a sous les yeux. Si vous êtes Premium, Régis, Baptiste, Valérie et Cyril, toutes ces personnes-là, malheureusement, n'écriront plus dans The Game et c'est plutôt triste. Donc maintenant, je demande un déblocage de fonds pour recruter toutes ces personnes.
D'accord.
Voilà, je le fais officiellement devant Julo. Vous êtes témoin, cher lecteur, cher lectrice.
Tu demandes une cagnotte ou tu demandes que
ah non, Gameblog débloque des fonds? Ah non, mais toi, de ta poche
directement.
Ah oui, de ta poche directement. C'est-à-dire, tu prends les billets dans ta poche.
Ce sera avec grand plaisir, hein, franchement. Dans tous les cas, évidemment, on souhaite le meilleur pour la suite aux équipes de The Game. On fait un gros bisou à Vincent et à tout le monde.
On espère qu'il trouvera un moyen de rebondir, si ce n'est chez Link Digital Spirit. Ailleurs, en tout cas, c'est
un magazine dont on se souviendra particulièrement. Je sais pas vous ce qui vous a marqué dans The Game, mais particulièrement
c'est Couve.
Des
Couves qui étaient très travaillées à chaque fois.
Ouais, vraiment superbe.
Et qui étaient encore plus belles pour les abonnés, puisqu'il y avait encore moins de texte, on pouvait admirer un peu plus.
Alors, tu parles d'abonnés d'ailleurs, parce que le dernier numéro ne sera disponible qu'en PDF pour les gens qui n'étaient pas abonnés, mais ceux qui sont abonnés recevront bien le dernier numéro. Eux, il a été tiré rien que pour eux. Du coup, ils auront droit.
Et puis, ils ont le courage de se lancer à un moment justement où la presse vidéolithique était justement un peu en berne et on voyait plus. Et on avait émergé justement des titres très quali comme The Game avec des articles.
Oui, de faire autre chose que Jeux Vidéo Magazine, qui est l'autre magazine de chez Link Digital Spirit, que je connais assez bien, qui est un peu plus branché consommateur, alors que The Game, lui, c'est vraiment beaucoup plus ancré vers les dossiers de fond, les analyses.
Analytiques, etc.
Et l'histoire même des jeux et des sociétés qui font les jeux. Donc bon, c'est plutôt triste de voir que ce genre de magazine s'arrête, et celui-ci en particulier.
Voilà, gros bisous à vous tous et à bientôt donc dans d'autres magazines, sites et autres endroits où vous pourrez vous exprimer et exprimer votre passion pour le jeu vidéo. À bientôt donc, et on enchaîne sur ce petit moment tristesse avec un petit moment nostalgie, Thomas, puisque tu reviens avec nous sur le passé du jeu vidéo, le passé de Gameblog, il y a 10 ans sur Gameblog, générique.
Donc, cette nostalgie. On l'entend vraiment maintenant ?
Oui, c'est bon.
Ouais, c'est ce que je.
Enfin, nous, toujours pas.
Ouais,
mais...
Parce que les dernières fois, quand c'était moi qui faisais les lancements, il se passait rien.
Ouais. Ça y est. Donc c'est réparé. Poufy a réparé la machine. Donc tout va bien. Alors Thomas, qu'est-ce que t'as déterré cette semaine ?
Il y a 10 ans sur Gameblog, et pour le coup, c'est Plume qui s'est chargé
de
cette sélection hebdomadaire.
Après, on me dit ah mais toi tu sais tout sur tout.
Ah mais voilà.
L'homme qui sait tout, justement.
En fait, c'est lui qui te fait ça à chaque fois.
Et je lui fais confiance pour le coup.
Et t'aurais pas dû.
Et cette sélection qui commence par une bien mauvaise nouvelle pour le coup, puisque il y a 10 ans, on apprenait que la Games Convention 2009, allait être tout simplement annulée. On mettait ça sur le coup du retour un petit peu de l'E3, puisqu'on sait que l'E3 entre 2007 et 2008 avait perdu un petit peu de sa superbe, et du coup le salon européen en avait profité pour tirer un petit peu son épingle du jeu. Et là, malheureusement, début 2019, patatras.
2009 même. Hein.
2009, oui, je vais pas
on
y arriver.
On va y arriver.
Hein, excusez-moi.
C'est compliqué.
Je ne suis pas un homme du passé, visiblement. Ben voilà, il faut croire que la Gamescom attirait suffisamment de monde pour que la Games Convention soit annulée dans sa formule initiale.
Bah, c'était l'angoisse. Hein. C'était à Leipzig. Et toutes les personnes, tous les journalistes qui allaient à Leipzig, en Allemagne de l'Est, absolument, tous ceux qui y allaient nous expliquent en revenant qu'ils avaient envie de se tirer une balle, tous, les uns après les autres.
Mais tous ne l'ont pas fait, visiblement.
Mais tous ne l'ont pas fait. Il y en a certains, c'est dommage. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel. Mais toujours est-il que, oui, il y a eu la Gamescom qui a ouvert juste en face. Après, à Cologne, qui existe toujours.
Ah bah ville plus accueillante en termes d'infrastructure et d'accès, nous disait la news à l'époque.
On peut le confirmer. Donc la Gamescom, cette année-là, il y a 10 ans, a siphonné la Games Convention. Voilà.
Donc Games Convention, qui est devenue la Games Convention Online pour l'année 2009, qui a tenté en fait de se recycler un petit peu en ne parlant que des jeux sur browser, donc sur Google, etc., sur navigateur. Et il y aura eu une édition en 2009, et ça n'a jamais vraiment pris, puisque dès l'année suivante il y avait absolument plus rien.
Et la Gamescom battait tous les records de visites, de taille, de tout, de saucisses aussi.
Tout à fait. C'était d'ailleurs
et de Kölsch
précisé dans la news.
Oui.
Donc voilà, ça c'était la première info il y a 10 ans et évidemment maintenant, vu que nous allons parler de chiffres, un chiffre très important, c'est évidemment Traz qui nous en parlait à l'époque, c'est la Nintendo DS qui arrivait presque au score de 100 millions d'unités vendues, mm-hmm. ce qui était évidemment absolument énorme. Donc c'était il y a 10 ans en pleine folie DS.
Ah bah c'était la folie. Mais c'est toujours la console la plus vendue de tous les temps. Hein.
Portable.
Mais même.
Non non. Je crois que là, elle est derrière la PS2 en fait.
Elle est derrière
de 3,
la
PS2. Ouais, de 3,
la PS2 elle a plus de 120 millions. Hein.
Elle a 150.
Non mais, là,
150,
parce que là elle est arrivée à 100 millions la DS, mais elle a fait beaucoup
plus. Je crois
plus
que la
après,
PS2 hein. est à 157 et la DS à 154.
Bien, nous allons vérifier cette information pendant que Thomas continue.
Eh bien non,
de
pas du
expliquer.
Tout, puisque les chiffres.
Tu les as
je les ai, mon cher
Julien.
Je me suis un petit peu renseigné.
Alors tu vois, moi je pensais que c'était lui qui savait tout. En ouais. fait, c'est pas vrai.
Bah moi j'ai rien,
c'est,
j'ai rien
c'est
dit.
C'est lui qui sait tout.
Et pour le coup, je dois rendre hommage à Philippe qui a cité quand même. Alors je sais pas si t'as copié.
Ah non, non, vraiment, je.
Le chiffre de 154 millions en tête, c'est exactement ça. C'est le total life to death de DS vendu.
154
Tout ouais. modèle et confondu. Et donc si la PS2 est à 157.
La PS2, je crois qu'elle est à 157. Ouais.
Elle est toujours au-dessus de la DS. Bon, qui fêtait en tout cas il y a 10 ans un très 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 joli score. Alors, il y a un demi-milliard de chiffres dans la news de Traz, de profits, de milliards de yens convertis en milliards d'euros. Donc je vous invite à éventuellement aller la lire si vous avez envie de voir un petit peu le détail des bénéfices de Nintendo à cette époque. Bénéfices d'ailleurs qui étaient un petit peu en baisse par moment, mais qui n'a pas empêché la console portable aux deux écrans
déjà
de
à
se
l'époque,
vendre
c'était en danger,
comme des
types, hein.
Oui, déjà en 2009.
Alors, parce
Nintendo
qu'on sait qu'aujourd'hui ils sont vraiment vraiment en danger.
De toute façon, je pense que ça restera la console portable la plus vendue de tous les temps. Et
probablement.
Parce que voilà, là, à mon avis, on ne risque pas d'en voir.
Oui.
Je vous glisse juste l'analyse économique de Traz qui nous expliquait que les bénéfices nets étaient en berne. La raison point d'interrogation, un yen trop surpuissant. Voilà.
Et oui.
C'est vrai. C'est une chose qu'on peut considérer.
C'était Traz en direct et de la dernière course de Tokyo.
Sa dernière phrase de news, du coup, c'était quoi, tiens? Parce que c'était sa spécialité de faire des dernières phrases qui n'avaient aucun sens.
Non, là, ça va.
Ah ouais?
C'était ça.
Ouais.
Non, il nous parlait de Mario Kart Wii, avec déjà 13,7 millions de jeux vendus. Donc, tu vois, c'est hyper soft.
Ah, je suis déçu.
Mais c'est pas grave, puisque la dernière news de cette sélection hebdomadaire est également signée Traz, même si pour le coup, il y a un tout petit peu moins de chiffres, mais quand même, puisque il y a 10 ans, on dressait le bilan en fait du marché DVD, Blu-ray et jeux vidéo en 2008, et il se trouve que pour le coup, les jeux vidéo dépassaient justement les ventes de DVD et Blu-ray, et on avait ce merveilleux sous-titre de Traz qui se demandait si vous allez nous prendre au sérieux maintenant ou... voilà, trois petits points.
Ah, il s'était pas totalement lâché.
Voilà, c'était. Ouais, en même temps, il était 9h
du
matin.
Alors que dans la news, il dit « Ah, bande de fils de pute !» Tu vois.
Donc, effectivement, en 2008, les ventes de jeux vidéo avaient dépassé celles de DVD et Blu-ray. On situe quand même pour nos lecteurs, à l'époque, on achetait encore des jeux en boîte, hein, dans leur version physique, etc. Donc, c'était pertinent de comparer les ventes qui, aujourd'hui, ne le seraient pas forcément tout autant. Mais du coup, on sait que depuis, le succès du jeu vidéo ne s'est pas stoppé, puisque j'ai pris quelques chiffres un peu plus récents, parce que là on était quand même en 2008. En 2016, en termes de bénéfices, le cinéma c'est 49 milliards de dollars, quand le jeu vidéo en totalise 101. Donc
plus du double quoi.
Plus du double en termes de bénéfices nets. Et pour vous donner un ordre d'idée sur les produits culturels qui avaient réalisé le plus gros bénéfice, on a d'un côté Avengers Infinity Wars qui faisait à peu près jeu égal avec Star Wars The Force Awakens, à savoir 2 milliards de dollars de bénéfices, quand GTA V réussissait à accumuler en 2008 6 milliards, rien que ça évidemment, pour ce titre à la longévité ininterrompue. Donc on voit que depuis 10 ans, le jeu vidéo ne fait que gagner des parts de marché encore et encore.
Je pense qu'on devrait s'adresser avec beaucoup plus de dédain à nos voisins de chez Ciné-Série.
Exactement.
Et leur dire nous on pèse, nous on palpe. Donc s'il vous plaît.
On devrait limite pas leur dire bonjour.
Exactement.
Le matin.
Exactement. Ouais, on devrait pas du tout leur dire bonjour.
En les regardant de haut comme ça, tu vois, en passant.
Mais du coup, vous irez quand même demander des places pour des avant-premières après ou ça
se passe c'est pas eux qu'on demande donc en général.
Non, parce que non, pas du tout.
D'accord.
On les reçoit directement.
Exactement. Okay. Bah oui, on palpe nous. Attends.
Vous m'avez convaincu.
On pèse dans le game. Attends. Qu'est-ce que tu crois?
Bon, bah merci Thomas pour petit tour de l'actu d'il y a 10 ans sur Gamublogu, comme c'est marqué dans le conducteur. Alors en revanche, comme ce n'est pas fait dans le conducteur, on va d'abord s'intéresser à Metroid Prime 4, l'un des faits d'actu de la semaine, avant de terminer avec Kingdom Hearts 3. Donc effectivement Thomas, cette semaine, patatras.
La semaine dernière d'ailleurs.
Oui, effectivement. La semaine dernière, tu as raison. Patatras, comme je disais, voilà, patatras. On s'y attendait pas. Ça fait maintenant, depuis quelques années, que Metroid Prime, quelques années, j'exagère un petit peu. Oui, c'est quand même 2017.
3-2017.
Que Metroid Prime 4 est annoncé et qu'on attend à chaque fois qu'il y a un événement Nintendo. Bon, bah cette fois, il va y avoir Metroid Prime 4. Ah, bah non. Bon, bah cette fois, il va y avoir Metroid Prime 4. Bon, bah cette fois, il y a eu Metroid Prime 4, mais c'était pour annoncer une mauvaise nouvelle.
Effectivement, on attendait depuis des années une image, un sous-titre, quelque chose, trois fois rien. Et effectivement, depuis le logo qu'on avait découvert pendant le 3 2017, il n'y avait absolument rien eu concernant Metroid Prime 4. En tout cas, des rumeurs ici et là. Et bah, comme tu dis, patatras, la semaine dernière, le 25 janvier, c'est ce bon vieux Shinya Takahashi qui a pris la parole face caméra sur un décor neutre pour s'excuser platement. Comme vous le savez, vous avez vu la news, hein, ça a fait énormément parler la semaine dernière. Metroid Prime 4 qui était en développement quelque part, on ne sait pas exactement où, même s'il y a pas mal de rumeurs, on va revenir dessus, est complètement stoppé dans sa forme actuelle et repart chez Retro Studios, donc les Texans ex-Iguana, qui s'étaient occupés de développer la première trilogie de Metroid Prime sur GameCube, puis sur Wii, et qui vont donc récupérer le bébé et surtout recommencer le développement depuis le début.
Ouais, alors, de mémoire, je ne me souviens pas qu'on ait fait un... Enfin, que cette forme de communication ait été utilisée par qui que ce soit dans le domaine pour annoncer une annulation pure et simple. Enfin, je veux dire, c'est quelque part le genre d'éléments sur le développement, de genre d'infos sur le développement qui sont gardés en interne, qui sortent en rumeurs, qui sont plus ou moins validés, tu vois, au cours d'une interview ou un truc comme ça. Mais là, faire un événement comme ça avec tant de transparence... de la part de Nintendo en plus, c'est véritablement inédit.
Est-ce que c'est pas parce que peut-être qu'ils ont eu une crainte aussi que des journalistes qui avaient l'info
la divulgue
avant que eux puissent communiquer dessus. Est-ce que c'est pas quelque chose
À ce moment-là, tu peux faire un petit communiqué ou un truc comme ça, mais là, le fait de le faire face caméra sur un fond blanc comme ça, en s'excusant, en donnant des détails
à la japonaise, en
des
fait,
des détails
hein.
quoi. Ouais. C'est presque des détails qui ont été donnés.
S'excuser face caméra, ça a déjà été fait de la part de Nintendo.
Oui, mais je veux dire pour un projet en développement qui est certes annulé dans les faits, mais parce qu'il est il repart de zéro, plus qu'il est annulé, voilà, il est rebooté en fait. Mais enfin, c'est quand même un projet qui est annulé, c'est un fail quelque part, dans le sens où ils disent voilà, on a échoué, peut-être que eux ont mal choisi le studio, peut-être que les studios, parce que il y a des rumeurs comme quoi c'était chez plusieurs studios, peut-être que voilà, enfin on sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas c'est un échec qui est avoué face caméra et sur lequel on s'excuse et dont on dit que voilà, c'est rebooté depuis zéro. On va faire presque comme on aurait dû faire depuis le départ, c'est-à-dire le filet à rétro. Voilà, donc c'est assez enfin, moi, ça m'avait beaucoup étonné.
C'est
en fait
pas filet à rétro, c'est rétro aide à la supervision du jeu avec Takahashi, mais eux, on peut pas dire rétro a repris le jeu en main complètement. Ça a l'air d'être toujours considéré comme étant développé au Japon avec l'aide du studio texan. Donc c'est pas exactement la même chose. Je pense que ça va être la caution.
C'est pas complètement sûr parce que au surlendemain de cette annonce, on a eu quelques infos de la part d'un journaliste de Game Informer, Imran Khan, qui pensait savoir et qui en a parlé sur Twitter que justement si le développement original avait été annulé, c'est parce qu'il avait été morcelé sur plusieurs studios répartis dans plusieurs pays. Tout ça chapeauté par Nintendo et que chaque studio avançait à des vitesses différentes et que du coup c'était pas un projet qui était facile à gérer justement depuis le Japon et que l'avantage de renvoyer tout ça chez Retro c'était que tout allait être sous le même toit et que tous les gens qui travaillaient autour du jeu allaient être ensemble et allaient pouvoir prendre des décisions plus rapidement, etc. En tout cas, c'est ce que croyait savoir ce journaliste de Game Informer. Donc, a priori, tous les studios dont on avait parlé du bout des lèvres comme ça, notamment Bandai Namco Singapour, qui a priori travaillait sur le titre parmi tant d'autres, là, voilà, ce serait vraiment uniquement géré au Texas, avec toujours la supervision de Nintendo, évidemment, mais on aurait tout rapatrié là-bas.
En tout cas, ce que ça veut dire aussi, c'est que comme le projet repart de zéro, alors même s'ils vont certainement conserver des assets de la recherche, etc., c'est minimum 3 ans.
Ouais.
C'est 3 ans, c'est facile 3 ans entre maintenant et le moment où ça va sortir, peut-être plus. Voilà, c'est peut-être
sachant
ça
qu'on ne sait pas à quel moment ça a été pris en termes de décision. Il l'annonce la semaine dernière. Voilà. Depuis combien de temps est-ce que ça a été rapatrié pour l'instant, on ne sait pas.
Effectivement, tu as raison, mais ça ne peut pas être plus de 6 mois, 1 an. Enfin, je veux dire, c'est quand même le développement d'un Metroid, ça prend au minimum 3-4 ans quand même. Enfin, voilà. Et c'est peut-être pour ça que les gens étaient assez déçus. Hein. On voit les pouces en haut et les pouces en bas sur la vidéo YouTube hein, que Nintendo a diffusé, c'est énorme. Ah non, c'est j'avais lu 502K. C'est le contraire. Ah ouais. En fait, 15K versus 502. En fait, moi je l'ai pris comme ça aussi, comme la majorité des gens finalement, du coup.
Mais pourquoi ? Pourquoi on le prend bien finalement ?
Bah parce que
c'est transparent pour une fois.
Mais c'est totalement transparent. Imagine, c'est Ubisoft qui fait ça. Ubisoft, Electronic Arts, Activision, ils font un truc comme ça.
Tu sais quoi, tu as peut-être raison.
Ah mais j'en suis sûr.
Ne serait-ce qu'avec l'histoire du DLC là, par exemple, ce qu'a fait Ubisoft, tu sais, avec l'histoire, on en a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas, sur le DLC
Assassin's
Creed qui vont totalement refaire. Tu peux le prendre de deux manières aussi. Ouais, tu peux dire waouh, les mecs, ils ont entendu les critiques, ils ont immédiatement réagi et non seulement ils font pas que s'excuser. Ils refont quelque part un peu le jeu, ils ajoutent des achievements, des succès, des trophées, etc. Et ils refont le truc pour répondre en fait à la critique. Fail ou bonne nouvelle ?
Ah bah ils sont pris des coups de lance-flamme.
Ils sont pris des coups de lance-flamme directement. Mmh. Et là Nintendo quelque part, c'est vrai qu'ils accusent pas le coup et les gens réagissent bien comme on aurait dû réagir peut-être aussi avec le fameux DLC d'Ubisoft et bien d'autres histoires chez d'autres développeurs, etc. Ils sont honnêtes.
Effectivement, je pense que c'est plutôt que de dire que c'est les gens qui ont mal entre guillemets réagi avec Nintendo, c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est Ubisoft qui s'en prend plein la gueule depuis déjà 5-6 ans,
oui, c'est ça,
pareil pour EA, et puis voilà. Pour le coup, moi qui ai plutôt tendance à trouver que Nintendo a une espèce d'aura et qui fait qu'on n'attaque pas très très souvent, pour le coup je trouve ça assez honnête de leur part, effectivement, de dire de but en blanc, voilà, le jeu est rebooté et puis vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt bien.
Alors qu'on devrait être déçu. Enfin, moi, le premier, je suis déçu parce que je sais que Metroid Prime 4, après Metroid Prime Federation Force, qui est quand même une sacrée purge, qui lui, pour le coup, avait pas dû être fait en 3 ans.
Mais t'aurais voulu avoir un jeu bancal plutôt que ça soit rebooté.
Bah non, mais je suis dégoûté, comme tout le monde, comme tout fan.
Oui, non, mais tu peux être dégoûté, mais face à la réalité du truc, tu te dis putain, génial. C'est-à-dire que on va pas se foutre de notre gueule, les mecs.
Bah j'en sais rien.
Ça a pas le niveau de qualité requis. On annule et on recommence et on le met chez Retro Studio comme vous le vouliez depuis le départ.
Après ça.
Et là, tu te dis bon bah putain, heureusement qu'ils font ça. Parce que on va peut-être attendre, mais on va avoir un vrai Metroid Prime 4 et de la qualité qu'on
était censé. Je suis comme tout le monde, je suis impatient. Ouais, tu me dis un Metroid Prime, je suis comme un gamin. Tu me dis ça en 2017, tu te dis bon bah voilà, dans deux ans j'ai un Metroid Prime, ça
c'est
va
toi,
défoncer.
Là, sur la vidéo là.
Oui, c'était moi à l'époque en 2017 absolument. C'était après après une nuit sur le 3, j'étais comme un fou, je me rappelle. Je sais même plus ce qu'il y a sur ce t-shirt, mais il était dégueulasse. Mais
je crois que c'est Godzilla.
Bon bah bref.
Après, faut pas être, faut avoir un peu de recul. Ça reste de la part de Nintendo de la com entre guillemets. C'est-à-dire qu'eux disent, ils présentent le truc comme, ça n'était pas nos,
ça n'atteignait pas nos standards,
De qualité.
Forcément, ils le présentent comme ça. Il faut aussi avoir un peu de recul. On connaît pas toute
l'histoire. Ah ben ça, je pense que c'est la vérité.
Oui.
Pourquoi tu veux qu'ils aient annulé ? C'est parce que ça respectait pas les standards qu'ils attendaient.
Surtout que la série bénéficie déjà d'une aura particulière.
Bah pourquoi ils ont pas annulé Federation Force à ce moment-là ?
Ah ben ça c'est une excellente question.
je veux dire les gars.
Eh bien pourquoi on devrait leur poser la question ?
Mais la question avait été posée à Reggie Fils-Aimé à l'époque. Hein. Et oui, bah non, le jeu il se présente bien. Vous verrez quand il sortira.
Qu'est-ce qu'il y avait une édition pour l'annuler quand il avait été annoncé, je crois.
Oui, absolument. Parce que les fans étaient hors d'eux. Est-ce que je comprends ? Parce que le jeu était vraiment.
Tu joues pas, tu l'oublies.
Totalement dehors.
Ça c'est quelque chose qui m'agace un petit peu, comme le cas du DLC de Assassin's Creed. Pour moi c'est un gros fail en fait. Pour moi c'est vraiment un gros fail. J'arrive pas à comprendre, surtout alors c'est, on va dire, l'espèce de rapidité de la réaction qui me fait un peu peur, comme si, on va dire, une œuvre ne pouvait pas avoir ses imperfections.
Rappelle-toi de Mass Effect 3.
Moi je trouve ça un scandale. Enfin, j'ai été un peu déçu, je l'ai fait bien après, un peu déçu par la fin. Mais je me suis pas dit.
T'as pas pris ta fourche et ta torche.
Exactement,
après.
Quel scandale, brûlons les studios de BioWare. Enfin voilà. Et je trouve que les gens s'impatientent beaucoup trop sur les jeux.
Tu veux dire que les gens surréagissent en 2000.
Tu veux dire qu'Internet est un regroupement de personnes qui s'indignent de façon exagérée ?
Exactement.
Non. Qui font trembler la caméra chez eux.
Notamment sur les news de Kingdom Hearts. Mais. mais non, voilà, je pense qu'il faut prendre du recul. Ça reste du jeu vidéo, même si le jeu n'est pas parfait. Enfin voilà, faut, je pense qu'il faut.
C'est vrai que t'as l'impression qu'on a vendu leur mère à chaque
oui,
fois.
C'est ça. C'est... Non, mais c'est...
Le
ça,
truc.
C'est moi, alors, ça parce qu'en vrai,
quand tu touches à ton jeu fétiche, etc., oui, c'est comme tu si dis, on touchait
à une
partie
parce
de
que
toi.
Moi, Metroid Prime 4, je m'en fiche un petit peu, mais j'imagine que si c'était un jeu que j'attendais.
Eh ben, tu le testeras pour la peine.
Comment tu peux dire une chose pareille?
Non, mais j'y jouerai par contre, ça c'est sûr. Mais
bon, puis après.
Tu peux prendre l'exemple de Kingdom Hearts pour toi, qui a attendu Kingdom Hearts 3 pendant combien d'années?
Son annonce, non, 5 ans. Moi j'y tiens, ça fait 5 ans et demi qu'il a été annoncé. Mais effectivement, ça fait plus de temps que ça.
Ça fait plus de 12 ans qu'on attendait une suite.
Oui, depuis la suite du 2, voilà, ça fait plus de 12 ans.
Oui, parce que la suite du 2, c'est le 2,5, qui est suivi lui-même par le 1,8.
Si tu veux, j'y reviens.
Et le 3,4.
Suivi du cross, voilà. Distance.
Qu'est-ce qu'on avait dit exactement avant de commencer ce podcast
Pas du tout. Mais vous savez quoi, allez lire le dossier de Philippe pour comprendre exactement comment ça se passe au niveau chronologique.
Il faut être en forme quand même. Prenez peut-être un Red Bull avant ou un truc comme ça.
Ou des acides, enfin un truc quoi.
Ah, les acides, ça peut aider.
Mais moi, j'ai du mal. Du coup, pour faire un petit récap, je vous propose de reprendre un petit peu tous les éléments en fait qu'on a eu depuis l'annonce de Metroid Prime 4 assez rapidement pour qu'on voit un peu comment les choses se sont jouées. Donc on en parlait à l'annonce au mois de juin 2017. Bon, on attend, et au mois de novembre de la même année, on a un forumer de Reddit qui était une source assez crédible, qui avait déjà balancé quelques infos avant, affirme que le jeu est développé donc chez Bandai Namco Singapour, qui était un nouveau studio qui avait été monté par des anciens de ceux qui avaient bossé sur le terrible Star Wars 13-13 annulé comme chacun sait, et qui aurait dû être dévoilé, on aurait dû voir des images du jeu assez rapidement dans la foulée. Bon. En février 2018, Eurogamer reprend l'info et cette fois-ci affirme complètement que le jeu est effectivement développé en partie chez Bandai Namco. Sauf que en parallèle, on a des échos de chez Retro Studios qui nous ont donné Donkey Kong Tropical Freeze en 2014 et puis depuis. Plus rien, sinon un portage sur Switch. Et à ce moment-là, on pense en mai 2018 qu'un jeu de course estampillé Star Fox serait annulé chez eux. Ils auraient travaillé depuis quelques années
mais
sur un
ça, effectivement,
ou plusieurs jeux de course. Mmh. Et selon Kotaku, c'est des projets qui seraient tous en passe d'être annulés par Nintendo. Régis Fils-Aimé prend la parole en juillet 2018 en expliquant que le développement avance bien. Tout va bien.
Tranquille.
Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le lendemain, 3 juillet, on a des rumeurs carrément cette fois-ci de fermeture de Retro Studios, où pas mal de développeurs se seraient barrés en fait de chez les Texans, qui bosseraient donc sur plusieurs jeux de course en même temps. Au mois de novembre de la même année, novembre 2018, on a une nouvelle fois Reggie Fils-Aimé qui nous explique que par moment, c'est plus leur philosophie, mais des raisons stratégiques les poussent à expliquer en amont. Un jeu est en préparation, on sait que Nintendo a pris l'habitude d'annoncer des jeux parfois au dernier moment ou seulement quelques mois après leur sortie. Là, visiblement, ils avaient besoin de parler assez tôt de Metroid Prime 4. Et derrière, en
excusez-nous, on regarde la vidéo en même temps parce que les gens qui font des caisses comme ça, c'est pas possible.
Non, il n'y a pas de surréaction.
Parfois, je me fais une demi-heure de ça, c'est génial.
Ah la vache! Non, mais lui. Actor Studio, fantastique.
Rappelez-vous, les gars, du premier teaser de Smash Bros. Sur Switch. Vous rappelez du mec qui s'évanouit dans le Nintendo Store à New York.
Non, mais là, faut arrêter un moment, je pense.
C'est une image du jour de Poofy, je veux dire, ça va quand même très très loin. Et pour finir, décembre 2018, juste avant les Game Awards, on a la rumeur de l'annonce d'une Metroid Prime trilogie sur Switch, qui viendrait donc combler un petit peu le vide et puis faire le pont avec Metroid Prime 4. Et le move d'après, c'est l'annulation de la part de Takahashi. Donc, du coup, on ne sait toujours pas officiellement sur quoi bossait Retro Studios en fait depuis la fin de Donkey Kong Tropical Freeze.
Oh, moi, j'ai bien une idée.
On a des rumeurs, mais rien de certain.
J'ai un souhait, en fait. J'aimerais bien que ce soit F-Zero pour que Julo nous lâche la grappe. Voilà, c'est tout.
Ça n'aurait pas été F-Zero, a priori ça s'appelait Star Fox Grand Prix.
Ouais. Pas très calme, je trouve, comme
ça peut être un nom de code, hein, pour faire genre.
Oui.
Enfin, je sais pas.
Pour redresser la barre après Star Fox Zero.
Moi, je pense que le F-Zero qu'on attend depuis des années, ça se trouve, il est chez eux. Et qu'ils y bossent, depuis 2014.
Ouais, il a été annulé visiblement.
Ou pas,
bon.
Oh là, ça aurait pu avoir des rêves. C'est pas possible.
Alors, en tout cas, il bossait bien sur quelque chose. J'ai vu passer un tweet d'un directeur artistique qui a notamment bossé chez Double Fine aussi, qui affirmait qu'il travaillait bel et bien en 2015 sur un projet top secret chez Retro Studios, qui du coup aurait été visiblement annulé puisqu'il récupère dorénavant Metroid Prime 4. Donc voilà, encore beaucoup de mystères finalement sur cette affaire, et j'espère que les années qui nous séparent de la sortie du jeu nous laisseront l'occasion de lever un petit peu le voile sur tout ce qui s'est joué en coulisses. parce qu'on a évidemment une petite partie de, du puzzle, mais il nous manque énormément de choses.
Ouais, mais on n'est pas, pas près de les avoir quand même. Hein, les quelque chose.
Bah, c'est assez hermétique du côté de chez Nintendo.
En attendant, du coup, le report du jeu, ça fait quand même un gros trou dans le planning de Nintendo qui devait évidemment compter là-dessus.
T'es sûr?
Ouais.
Parce que quand on regarde le planning, justement, ça fait pas si gros trou que ça.
C'est vrai?
Bah.
Ah, sur l'année 2019, ouais, effectivement, on avait fait quelques petits.
C'est là où comment, tout le monde commence à dire sans Metroid, ça y est, la Nintendo et la Switch sont foutus. Enfin,
alors, qu'est-ce qu'il y a cette année, mon petit peu
Yoshi's Crafted World, qui a l'air plutôt très bien, même si je suis pas spécialement son plus grand fan. Fire Emblem Three Houses, pardon, qui lui a l'air aussi très bien, encore une fois. Le vrai Pokémon, il sort cette année. Normalement, si tout se passe
bien. C'est ce qui a été promis.
Luigi's Mansion 3, qui est prévu pour cette année. Animal Crossing est prévu pour cette année.
Yep.
Demon X Machina, bon.
Ah, je sens que tu t'en gardes un pour la fin. Je sais pas pourquoi.
Ouais, Demon X Machina, je suis pas.
J'ai le conducteur sous les yeux, j'ai l'impression que tu viens de sauter un truc pour.
Je suis pas celui
pour
qui
faire
va...
un truc à la fin, genre. Comme les mecs à la télé, là.
Il est en fire, lui aussi.
Oui, je pourrais le faire, je pourrais prendre la ventoline et tout.
Ah bah, c'est toi, là, voilà. Attention, dans deux minutes.
Oh. Voilà.
Vas-y, continue, pardon.
Je peux vous les nommer, c'est cam. Donc Demon X Machina, il y a des gens qui ont l'air de trouver ça intéressant.
Okay, ouais,
bon, c'est pas trop
et
pour
puis
moi.
Sinon, quand même, ouais.
Attends, parce que j'ai des vapeurs. Non mais j'imagine que Bayonetta 3, ils doivent se le garder.
Oula oh oh Bayonetta 3.
J'imagine. Ils peuvent nous sortir un jeu de football Mario aussi s'ils ont envie, ça leur fait plaisir, un Mario Strikers. Enfin bref, j'ai pas l'impression que Nintendo soit vraiment à la rue pour cette année. Je sais pas ce que vous
après,
en pensez.
Ce qui va vraiment sortir cette année, mais effectivement, moi ce qui m'inquiète juste un petit peu, c'est le manque d'informations sur certains de ces jeux. Bon, alors Metroid Prime 4, maintenant on a la confirmation, enfin on sait pourquoi. Mais effectivement, Pokémon, qui est quand même un jeu extrêmement attendu, personnellement, c'est peut-être. Si j'avais eu plus d'infos dessus, ça aurait été le jeu que j'attendais le plus de cette année.
Mais là, faut encore écouler les Let's Go, là.
Oui, effectivement.
Oui, bien sûr.
Bon,
Nintendo a toujours maîtrisé sa communication à ce niveau-là. Attention, il y a Plume qui s'énerve là-bas dans la télé.
Il sort du cadre.
Non, mais depuis que la Switch est sortie, on se disait, bon...
ils vont avoir du mal à tenir.
Ils se sont pris un sacré coup sur la tête avec la Wii U sur ces histoires de planning, ces périodes sans jeu, etc. On a vu très, très clairement leurs intentions dès la première année. On s'est posé la question, est-ce que dès la deuxième année, ça va faiblir? Alors, ça va peut-être faiblir en termes de qualité de jeu, mais en termes de remplissage du planning, pas du tout. Et dans cette période-là, on nous dévoilait les jeux très peu de temps avant, quelques exceptions près, parce que justement ils maîtrisaient et qu'ils voulaient pas polluer les sorties actuelles.
Mais honnêtement,
et là, plus le temps passe, plus le fait que la 3DS soit en retrait et que tous les développements de Nintendo soient désormais complètement à 100% sur Switch, moins c'est inquiétant. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins je m'inquiète pour le planning de Nintendo. Les mecs, il n'y a aucun problème. Alors, surtout que tu rajoutes à ça...
Tu rajoutes les indés, les éditeurs tiers, tout va bien.
Les indés, les éditeurs, certes, mais tu rajoutes aussi le fait que Nintendo confie de plus en plus de ses licences à des studios externes. Bon, dans le cas de Metroid, en l'occurrence, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que ça n'a pas marché, mais dans plein d'autres cas, ça fonctionne très bien.
Avant, ça a fonctionné.
Voilà. Ouais. Et donc, il y a aussi d'autres licences qui sont chez d'autres studios. Moi, je ne me fais aucun souci pour l'année 2019 de Nintendo, hein, vraiment.
Ouais.
Et sur la sortie de Pokémon, je crois pas que c'est un mauvais signe qu'on en ait pas encore vu.
Après,
ou entendu plus à son sujet.
Je dis pas forcément que c'est un mauvais signe du point de vue de la date de sortie, ça sortira sans doute cette année, mais d'un point de vue qualitatif aussi. Enfin, on sait qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits
Allez, balance, n'aie pas peur, dis-le.
En gros, que ce Pokémon s'inspirerait pas mal de Pokémon Let's Go, qui selon moi n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fans, hardcore, même si je suis pas un fan hardcore. Hein,
attends, que le nouveau Pokémon, le prochain vrai
s'inspire,
nouveau Pokémon, s'inspire de Let's Go ou de Go?
De Let's Go. Dans certaines mécaniques de jeu, bon. Après, ça reste que des déclarations.
T'as peur qu'il n'y ait plus les combats?
Voilà, par exemple, ça c'est quelque chose. Personnellement, j'ai pas encore touché à Let's Go, mais
si tu sais que ça va te manquer.
Vu le nombre de gens que je vois en train d'y jouer dans le train à Let's Go, croise des Switch tous les jours en train de jouer à Let's Go.
De toute façon, quoi qu'il arrive, que Pokémon soit une purge ou pas, ça se vendra mais par palette. Enfin, faut se le mettre dans la tête. C'est pas d'un point de vue de la vente. Là, je parle vraiment d'un point de vue qualitatif en tant que joueur. Enfin, moi personnellement. Mais bon. Après, effectivement, il y a des.
Puis reste les surprises.
La Switch, bien sûr.
Il reste les surprises. Avant le 3, je suis sûr qu'ils vont balancer des trucs. À le 3, ils vont balancer des trucs. C'est forcé.
Concernant Metroid Prime, juste pour recoller à Metroid 2 secondes. Est-ce que vous pensez pas qu'ils vont nous sortir quand même une trilogie
Si, mais du coup, je pense que la trilogie, elle est décalée aussi, en fait. Vu que, pour moi, s'ils lançaient la trilogie, c'était pour justement ramener un petit peu les gens, leur rafraîchir la mémoire, parce que Metroid Prime 3 commence quand même un petit peu à dater. Je crois que c'est 2007, si je dis pas de bêtises.
C'est celui qui est présent là.
Ben on a les trois là sur la table, issus de ma collection personnelle. Et tu parlais justement du planning 3DS, Julo. Elle a été un peu utilisée ces derniers temps pour justement combler un petit peu les trous. Luigi's Mansion, s'il est ressorti, c'est pas un hasard. C'est aussi qu'on a un troisième épisode qui arrive. On a Yoshi's Woolly World là qui est porté sur 3DS, qui va aussi servir à mettre en avant un petit peu le prochain sur Switch. Donc pour le coup, avec le report de Metroid
Prime
4,
que ça repousse
on a deux jeux en fait qui sont décalés. Parce que pourquoi sortir la trilogie aujourd'hui si tu sais que ton jeu sort en 2020-2021.
C'est une très bonne remarque. Après ils peuvent décider aussi de combler le planning, je sais pas, mais effectivement c'est un très bon argument.
Mais la trilogie elle est officiellement annoncée, elle est, c'est sûr que ça va...
Officiellement non,
D'accord, okay.
Ça reste des rumeurs comme quoi il apporterait sur Switch.
Bon, ça, après, ça m'intéresserait. Metroid, il y a tellement de choses qu'on peut faire hein. S'il y a une console virtuelle, enfin une console virtuelle, s'il y a une offre Super Nintendo sur comment dire, sur Nintendo Switch via le online, tu peux te retrouver avec Super Metroid, tu peux aller chercher les épisodes qui sont sortis sur GBA, tu peux aller chercher Other M qui est sorti sur Wii, qui est quand même un super jeu aussi. Tu dis à la Team Ninja, bon bah allez, refaites-nous un petit ravalement de façade là pour refaire ce jeu là il y a des gens qui ont pas trop compris que c'était de la bombe, faut leur remontrer. Il y a plein de possibilités avec Metroid avant que Metroid Prime 4 arrive, sauf ressortir Federation Force. Là c'est peut-être la seule chose à laquelle il faut pas penser, quoi.
Bah peut-être que pour t'emmerder ils vont faire ça.
Non.
Federation Force sur... Other M, t'as adoré toi ou pas?
J'ai bien aimé Other M, ouais.
J'ai adoré Other M.
Je l'ai pas porté au nu, mais je l'ai trouvé bien, très bien.
Oh là là, mais il était super, vraiment.
Il était très intéressant.
Ah ouais, il était vraiment extraordinaire.
C'était sympa d'avoir justement une autre lecture d'un Metroid que celle de Retro, qui est fantastique au demeurant, mais c'était intelligent de confier ça à la Team Ninja. En plus, ça se rapprochait un petit peu des épisodes 2D qui ont mes faveurs. Enfin, c'est peut-être la meilleure formule pour un Metroid, même si j'adore les Prime. Du coup, ça faisait un petit peu la passerelle entre les deux. Et c'était intéressant.
C'est marrant, moi je préfère les Prime, moi perso. Mais je suis pas un grand fan de la série comme toi, mais je préfère quand même les Prime.
Pour mais si t'es pas un grand fan de la série, on s'en tape du coup.
Bah, j'étais pas un grand fan de la série. Mais
Jacques il serait là, il te mettrait un coup de latte. On est d'accord.
si je pleure, oui. Mais... Bon, en tout cas, ouais.
Je pense à un autre jeu à faire à suivre. On sait que le studio derrière les Bravely et Octopath serait a priori sur un nouveau projet. Donc
un troisième opus, a priori. En tout cas, c'est ce qui est teasé pour l'instant.
Je préférerais effectivement
un plutôt qu'un Sword ou un truc comme ça.
Ouais, ce serait pas mal.
Donc on parle d'Acquire en l'occurrence.
Ouais, Acquire, effectivement.
Il y a tellement de possibilités.
Ouais.
C'est magnifique. Bon, est-ce qu'on a tout dit sur ce sujet, chers amis?
Bah oui, je crois qu'on
avant
a fait
qu'on
le tour,
ne parle plus de Metroid Prime 4 pendant 3 ans.
Pendant des années.
Voilà. On va donc passer à la suite, ce moment tant attendu. Nous allons parler de Kingdom Hearts.
Et
avec
c'est là
toi,
que je vais me
Philippe.
Sentir très seul.
Non, pas
tu
du tout,
pas
t'as des spécialistes avec toi.
T'as bien vu quand même.
Ah moi je sais qu'il y a un truc.
Plus
je suis incollable.
T'as joué.
On en parlera. Ah bah, il y a un truc que je connais dans le jeu, faut absolument que j'en parle.
Je suis pas sûr que
tu
veux.
Ah oui, bien sûr.
Je suis pas sûr que tu prononces bien en plus.
Alors d'abord, une petite précision quand même. On va vous expliquer pourquoi le test.
Pourquoi Philippe a des cernes.
Pourquoi le test n'est arrivé que le jour de la sortie du jeu. Et quand je dis le jour de la sortie du jeu, certains d'entre vous y jouaient depuis le vendredi d'avant.
Bon nombre d'entre vous,
parce qu'il était apparemment dans toutes les boutiques.
La street date a été salement cassée.
Elle a été pétée.
Même les vendeurs en ligne, les grands magasins. À partir de vendredi.
Même chez un horloger, je voulais mettre une pile dans ma montre. Le mec avait attendu.
Vous voulez
Kingdom
Hearts?
Puis le test est sorti le 28 à 23h35. Donc un petit peu avant la sortie.
Il faut préciser, c'est vrai que tu t'es saigné quand même pour que ça arrive le plus tôt possible. Et donc, effectivement, nous avons délivré le test.
Un petit peu.
Délivré, faut que j'arrête avec ça. Nous avons livré le test la veille de la sortie. La veille au soir.
Voilà. Donc vous aviez encore une demi-heure avant de craquer à la street dead pile si vous la respectiez.
Alors pourquoi est-ce qu'on dit bravo à Philippe? Parce que pour ça, il a dû y jouer 30 heures dans le week-end, comme il disait tout à l'heure, parce qu'on a reçu le jeu très tardivement.
Ouais, exactement.
Et bon, alors on va dire, c'est pas un problème. Les éditeurs ont le droit de nous envoyer tardivement le jeu. C'est juste que pour nous, c'est un peu compliqué de vous livrer un test rapidement. Mais ce qui était beaucoup plus étonnant, c'était de voir, alors qu'on n'avait pas encore reçu le jeu, que des tests paraissaient sur tout un tas de sites dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe également,
avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne,
l'Angleterre, les Pays-Bas, etc. Et bizarrement, chez aucun média en France. Parce qu'on s'est d'abord dit, bon, bah, il y a dû y avoir une exclue avec le plus gros site français, c'est-à-dire jeuxvideo.com, qui va avoir le test avant nous. Bon, après, ça, c'est le jeu. Hein. Parfois, il y a des exclus avec certains médias, etc. Sauf que là, il y avait des exclus comme ça organisés dans tous les pays, mais en France, il n'y avait aucune exclue qui était organisée. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous, en France, jeuxvideo.com, jeuactu, gameblog, gamecult, etc., n'a reçu le jeu avant l'apparition de ces tests à l'étranger. Mmh. C'est vraiment très étrange. On a demandé des explications quand même à Square Enix qui n'en avait pas véritablement. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, si je peux donner ma théorie du complot.
Vas-y.
Non, c'est pas ça, c'est que les fans français en particulier ont fait énormément de bruit autour de l'absence de doublage en français. Parce qu'on le sait, ils étaient très attachés, ils disaient bon, on n'a pas eu de doublage dans les épisodes de Teardrop, machin, bidule, les trucs, mais dans le 1 on en avait, dans le 2 on en avait, donc dans le 3 on aura un doublage français, on y tient, etc. Le jour où c'est annoncé, c'est un shitstorm.
Ouais, un tollé assez incroyable.
Mais, incroyable.
Une tempête de mer, dans l'occurrence.
Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, une tempête
de mer. En français,
dans
le texte. Ouais,
merci de la précision. Donc, un shitstorm incroyable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis lors, il y a régulièrement des mecs qui, sur Twitter, envoient des messages à Square Enix dès qu'ils font une communication autour de Kingdom Hearts 3 en les insultant, en leur disant vous n'avez pas mis la langue française, bande de bâtards et tout ça. Enfin, bref, des trucs. Je crois qu'il n'y a que la France qui a pété un câble sur l'absence de localisation des doublages. Et donc, je me dis. Peut-être que Square Enix s'est dit, au bord là-haut, écoutez les gars, si on file le test aux Français, on va se prendre des putains de sales notes, etc. Donnons-le d'abord aux autres. Quoi.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est une théorie très personnelle, mais je la garde pas pour moi.
Bon, elle est très juste, hein. À mon avis. T'as tapé exactement là où il fallait.
Tu crois
certain.
Ah, mais si c'est validé par l'homme qui sait tout.
Ouais, franchement, là, je pensais pas, tu vois, parce que autant de tout à l'heure, il m'a manqué de respect totalement. Là, je sais pas, soit il essaie de se rattraper, soit il est honnête et il le dit vraiment.
Après, l'une des.
Non, je m'en bats les steaks.
Voilà, peut-être.
Tout simplement.
L'une des choses qu'on peut se dire quand on reçoit, effectivement, c'est ce que disait Romain l'autre jour, quand on reçoit un code ou un jeu peu de jours avant la sortie du jeu, c'est que. En général, ça sent pas très bon. Ça te met pas dans de bonnes conditions.
Alors là, c'est pas le cas. Spoiler, vous l'avez vu. Vous avez vu que le jeu a eu un joli 9 sur 10.
Un joli 9 sur 10.
Donc, tu avais quelque chose à dire aussi sur avant qu'on passe
au jeu,
au reste, sur la communication, Square Enix,
sur
de manière générale.
Sur la communication, et justement, ça tombe bien parce que je vois. Donc, Poufy vous met à l'image les trailers. Bon, là, ça va, c'est du trailer de gameplay, donc ça spoil pas trop. Mais comme je le mettais dans le dossier récapitulatif de la saga, c'est vrai que Square Enix. Alors, je sais pas à quel niveau ça joue parce que je sais que Tetsuya Nomura a la main mise sur pas mal de choses. Qui tourne autour du jeu et notamment toute la partie communicationnelle, mais c'est vrai qu'on a vu pulluler depuis 6 mois de façon générale et surtout depuis 3 mois des trailers, mais genre toutes les semaines des screenshots.
Alors précisons-le, des trailers que tu n'as absolument pas regardé depuis
que je n'ai
le début
pas
de la
regardé, que j'ai regardé une fois que j'ai fini le jeu et je suis tombé abasourdi de voir ces trailers qui spoilaient des parties que je me suis efforcé de ne pas évoquer dans mon test justement parce que c'était des éléments très sensibles de l'intrigue. Et oui, donc tout à l'heure on a vu passer des éléments qui se déroulaient tout à la fin du jeu et qui sont extrêmement importants pour l'histoire, et je ne comprends pas, on va dire, cette propension de Square Enix à comme ça déflorer ses jeux. Alors je sais que c'était déjà le cas de Final Fantasy XV, mais même avant Final Fantasy XIII 2, depuis on va dire quelques années, de tout dévoiler.
Est-ce que tu peux les interpréter comme du spoil si tu ne connais pas l'intrigue du 3? Si tu les avais vus avant, est-ce que ça t'aurait vraiment spoilé quelque chose,
si,
ou est-ce que ça
pas
dévoile des environnements?
Déjà tous les environnements sont quasiment dévoilés, franchement. J'ai vu, bon alors ça c'est les fameuses phases en gumi.
Ça c'est copyright plume.
Voilà. Oui, tous les environnements sont dévoilés, mais je parle vraiment d'éléments propres à l'intrigue. Donc effectivement, si t'as pas joué au précédent jeu, bon, tu peux ne pas.
Ouais, mais la question c'est plus si t'as joué à tous les précédents jeux, mais pas encore.
Si t'es un gros fan
et
que tu mates les trailers, est-ce que vraiment tu te spoil quelque chose?
Absolument.
Tu te spoil le 3 totalement.
Complètement. D'accord. Alors, après, c'est assez furtif. On voit pas non plus. Enfin, on voit pas des personnages qui parlent et qui indiquent n'importe quoi, mais ah, machin est mort ou des trucs comme ça. Mais ça reste quand même très. Bon, ça c'est un moment un peu naze du jeu.
Après il faut bien qu'ils communiquent avec des trailers et donc avec des passages du jeu. Je sais pas comment.
Regarde, moi je trouve qu'il y a.
Je fais l'avocat du diable.
Il y en a que je trouve formidable d'un point de vue de la communication, c'est Rockstar. Rockstar, ils n'ont pas besoin d'en montrer des tonnes. Alors,
mais surtout, ils trafiquent leur trailer hein, pour qu'on ne voit pas ce qu'ils ont envie de montrer tout le temps.
Peut, oui, mais c'est intelligent, justement. Oui,
ils sont également citer Hideo Kojima, qui excelle dans cet art de ne rien spoiler ses jeux, et au contraire, même,
non, mais lui, c'est ça
qui est génial. C'est
qu'il te met des fausses pistes.
C'est ouais. ça, c'est ça qui est extraordinaire. Là, il n'y a pas de fausses pistes, c'est vraiment. On te montre une grosse partie du jeu. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne prendrez pas de plaisir. Il y a du plaisir autre que dans la découverte des univers ou de l'intrigue. Mais c'est vrai que c'est dommage de procéder comme ça depuis quelques temps.
C'était un petit coup de gueule.
Voilà, c'était un petit coup de gueule. Après,
après, il y a peut-être beaucoup de fans comme toi qui se sont complètement préservés.
Oui, voilà, c'est ça.
Moi, j'avais fait ça pour la sortie de Star Wars épisode 8. Je crois que j'avais regardé aucun trailer pour aller voir le film sans avoir rien vu.
Je regarde plus trailer aussi, de film non plus.
Thomas,
donc,
toi qui... Je l'ai vu, arrête.
Ah bon, c'est... Bah, oui, je pensais que tu lançais une blague là.
Non, non,
donc,
je l'ai vu.
T'as vu un film assez récemment quand même.
J'en ai même vu en 2018. Donc,
Waouh.
Et ouais, j'ai vu Star Wars 8 qui est juste une daube infâme. Mais,
c'est toi la daube infâme, qu'est-ce que tu racontes?
Non, la daube infâme, c'est Leia qui vole quand même.
Mais arrêtez vos conneries.
Et ça, moi je leur pardonnerai jamais, je crois.
Oh bah oui, t'as raison.
La flying Leia.
Oui, blablabla.
Mais toi, t'aimes.
T'es pas d'accord avec ça?
Non, mais c'est en gros, vous êtes les garants de la force, George Lucas.
Non, on a le droit d'avoir un avis critique, excuse-nous.
Non, non, bon, oui, un avis critique, oui, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas.
Donc, pour faire une transition, même si Star Wars ne fait pas partie de.
À bientôt.
On va dire de
4,
Disney,
hein.
Mais voilà, il ne fait 4, pas partie du jeu Kingdom Hearts 3. Mais donc voilà.
Mais
donc,
tout comme l'univers de Final Fantasy, parce que moi, il y a un des trucs qui m'a. Bon, je ne suis pas un grand fan de Kingdom Hearts, hein, tout le monde le sait, mais. Tu m'arrêtes si je me trompe, dans les premiers Kingdom Hearts, c'était une sorte de mélange entre les univers de Disney et de Final Fantasy. Maintenant, on a l'impression que c'est juste le personnage principal qui est dans les univers de Disney. Quoi.
Alors, plus précisément, il n'y a jamais eu de monde Final Fantasy. Mm.
Ça, c'est... Non, mais il y avait des personnages.
Oui, il y avait des personnages qui intervenaient dans les univers. On a Squall, on a Selfie.
Ça faisait quand même un peu crossover, quoi.
Effectivement, il y avait un côté crossover qui était assez prononcé. Malheureusement, dans ce Kingdom Hearts, il ne faut pas les attendre. Ça reste...
Donc, il faut croire que ce n'est pas forcément ce qu'attendaient le plus les fans. Les fans, ils...
Bah, la série a eu le temps de développer son univers aussi.
Effectivement,
quelque part.
C'est ça. Effectivement, c'était quelque chose d'assez. Disons que ça aurait été beaucoup plus choquant de ne pas voir de Disney du tout.
Enfin, ah, bah évidemment.
C'est vraiment Disney qui fait Kingdom Hearts. Voilà. Mais non, voilà, il ne faut pas s'attendre à voir débouler des tas de personnages Final Fantasy. Vraiment, ça reste de l'ordre du. De la petite,
du caméo.
Ouais, du petit caméo, de la petite mention, mais voilà.
D'accord.
Voilà. Mais sinon, donc, j'ai pu tester le jeu pour faire un petit peu moins de 30 heures. Un petit peu moins de 30 heures. Donc, c'est un jeu qui a énormément de qualité. Quelques défauts, bien sûr. Je laisse Plume évoquer un des défauts principaux du jeu. Il y tient tellement.
C'est quoi? Bah, c'est le gummy, voyons.
Le gummy, ouais. Le vaisseau, ce vélo
que la série traîne comme un boulet depuis.
C'est le vaisseau, non?
Ce vaisseau, ouais, c'est un vaisseau.
C'est pas tout à fait un vélo.
Non, je dis vaisseau.
T'as dit vélo deux fois.
J'ai dit vélo.
On peut prendre le replay.
Ce vélo, alors. Oui.
Là, il insistait pas, il sait qu'il est grillé. Donc,
non, mais j'en sais rien.
C'est filmé, mec. Hein, donc,
moi, je pensais avoir dit vaisseau
tout à l'heure en plus.
Après, mon cerveau peut me jouer des tours.
Ah, parce que le reste de la journée, il est pas filmé, et là, je peux te dire qu'il s'écrase jamais. Bah, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai. Voilà,
des fois, je te demande si t'es prêt, puis tu me dis quoi, puis en fait, t'es pas prêt, puis en fait, c'est moi qui suis pas prêt. C'est ça?
Exactement.
Et donc effectivement, t'as le vaisseau Gumi qui est, on va dire, la phase de gameplay qui représente en vérité que 5% du gameplay du jeu, donc c'est vraiment dérisoire.
C'est rien, ouais.
Mais c'est cette phase de shoot them up un peu fastidieuse qu'on se tape entre chaque monde, en fait, pour voyager entre chaque monde. Donc c'est l'affaire de 5 minutes en général, ça va super vite. Donc là, ils ont quand même fait l'effort de proposer autre chose. Avant, on avait quand même quelque chose de très linéaire, c'est-à-dire qu'on avait des vaisseaux qui arrivaient, on essayait de les dégommer, ça faisait une espèce de feu d'artifice de laser, voilà, assez indigeste. Ça restait assez sympa, mais bon, c'était quand même très accessoire et pas très, pas très intéressant.
Donc là,
t'es
en train de te débarrasser du défaut principal du jeu pour ensuite nous dresser
exactement
un tableau parfait du reste. Hein,
non,
c'est ça,
tout n'est pas parfait, comme je le disais dans le test. Mais là, pour finir sur le vaisseau Gumi, ils ont voulu proposer quelque chose de plus ouvert où vraiment on peut se balader dans ce qu'ils appellent l'océan des mondes, si je me souviens bien. Et les combats sont aléatoires, mais bon, ça reste toujours assez anecdotique et pas très intéressant à jouer. Pour ce qui est des choses intéressantes, donc je vais quand même commencer à évoquer les univers donc Disney qui sont mis encore une fois en avant. Donc, alors il y en a un petit peu moins que par le passé, ne vous attendez pas à en retrouver autant que dans Kingdom Hearts 2 par exemple, qui en proposait un assez grand nombre. Là il y en a un petit peu moins, mais ce qui est...
Il y en a 6 ou 7, c'est ça?
Proprement parlé d'univers Disney, il y en a 8, sachant qu'il y en a un qui est franchement pas très intéressant. C'est celui qui, pour moi, le plus décevant, celui que j'évoquais, qui est en plus pas très
celui
beau
d'Hercule.
À voir. Non, pas celui d'Hercule, celui de Winnie l'ourson.
D'accord.
Qui est pas très, qui est franchement très rapide. Alors après, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner beaucoup parce qu'il fallait que j'avance, mais voilà, qui est pas très beau en plus, qui vraiment se débarque. Alors que là, on
techniquement
voit,
daté, je crois que tu disais.
Techniquement super daté, alors que là, tu vois les images de la reine des neiges ou de Pirates des Caraïbes. On a vu tout à l'heure David Jones. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà. Mais sinon, pour les mondes, il y a des mondes qui sont vraiment réussis. Je pense notamment au monde de Réponse, qui est juste bluffant en termes de. On va dire qu'il est assez équilibré en matière de level design, de narration et qui est aussi très très beau à voir. C'est-à-dire que les personnages sont criants de vérité et puis
de vie quoi.
De vie, voilà. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir les personnages vivre, de voir les réactions des personnages, leurs émotions donc ce que je disais, c'est que t'as vraiment des mondes au level design très très variés. C'est-à-dire que t'as un monde comme Sweet Toy Story ou Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire que Pirates des Caraïbes, c'est une sorte de mini Black Flag en fait. C'est-à-dire que t'es dans un espèce
de monde ouvert.
Vraiment mini. Hein. Enfin,
un mini monde ouvert.
Voilà, faut pas s'attendre. Voilà, j'ai fait genre 30 heures, ça veut bien dire que c'est pas non plus énorme. Mais voilà, une espèce de coin de mer que tu peux visiter, sur lequel tu peux aller sur les îles avec ton bateau et tu peux aller partout sans temps de chargement. Voilà.
C'est un opus qui est beaucoup plus ouvert que les précédents.
Exactement.
Du coup.
Ça, c'était un défaut. Alors, c'est, on va dire un des défauts que je trouvais au jeu, c'est qu'il y avait un côté très carton-pâte, surtout sur les tout premiers. C'est pour ceux qui commencent,
oui,
qui n'avancent maintenant.
Sur PS2 en même temps. Donc,
voilà,
c'est
sur
PS2,
faut leur pardonner. Mais même sur les. Même si ça s'est un peu ouvert avec les épisodes 3DS et PSP, ça restait quand même assez cloisonné. Là, avec cet épisode, il y a vraiment des moments où c'est la première fois que je me suis dit, par exemple, attends, je viens d'où, est-ce que je dois aller déjà ? Première fois dans Kingdom Hearts, c'est impossible sur les épisodes précédents. Tu sais très bien où tu vas, c'est plus ou moins couloir. C'est un peu ouvert parfois, il y a des passages secrets, mais globalement, c'est très couloir. Là, c'est plus ouvert, il y a vraiment pas mal de choses à visiter, pas mal de secrets. Donc ça, c'est très intéressant. Donc comme je disais, ça reste très joli à voir artistiquement et techniquement, même si, comme je disais, c'est inégal. Je trouve que les mondes qui s'en sortent le mieux, c'est les mondes qui sont issus, visuellement parlant, je parle des films d'animation en 3D déjà. Donc Réponse, La Reine des Neiges, Toy Story, Monstres et Compagnie, c'est très
très...
C'est
pour ça que Winnie l'ourson t'a paru quand même en dessous des autres, c'est parce que c'est aussi beaucoup plus naïf, beaucoup plus simple techniquement, visuellement, etc.
Ouais, mais là ça fait vraiment, enfin tu vois vraiment les textures des décors, c'est pas beau quoi, c'est vraiment pas beau. Voilà, après encore une fois, le monde de Winnie l'ourson est très court, donc on s'y attarde pas. Pirates des Caraïbes, ça reste très joli aussi, donc voilà. Concernant le gameplay, qui est aussi qui prend une grande part dans mon analyse du jeu également.
Est-ce qu'ils ont enfin changé un peu le système de combat ? Ils l'ont complexifié ?
Oui, ils l'ont complexifié. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est complexifié avec les épisodes, y compris les épisodes plus alors moins majeurs, on va dire, plus
c'est
secondaires.
Avec des fractions là.
Oui, genre les épisodes PSP et 3DS notamment.
Et les décimales aussi.
Non, ça concerne surtout les compilations. Les compilations, effectivement, c'est un peu difficile à suivre. C'est un peu con. Enfin, les appellations sont un peu connes, pour être honnête. Mais donc, pour revenir sur le gameplay, on peut toujours. Disons que c'est une espèce de pot pourri de toutes les features de gameplay qu'on pouvait retrouver dans les épisodes précédents. Donc, on peut attaquer, on peut utiliser la magie, on peut invoquer. Donc là, on voit Ariel qui est invoquée. On peut utiliser le tir visé, on peut faire les coopérations avec les personnages qui t'entourent. Et surtout, maintenant, on a deux nouvelles possibilités de gameplay qui sont les attractions. Donc, qui sont inspirées des attractions Disney, tout simplement.
Des parcs Disney. Ouais.
Des parcs Disney. Alors,
quel placement de produit, voilà, c'est
exactement.
Magnifique.
Alors, il n'y en a pas 50 hein, des attractions, il y en a peut-être 5 ou 6, je crois. Et alors. C'est une espèce de déluge pyrotechnique, enfin tu vois des espèces de. Fin,
mais ça consiste, c'est des trucs dont tu te sers en combat. Gros, tiens, lui j'ai buté à coup de Space Mountain.
Space Mountain, ouais.
En fait, tu peux pas l'invoquer n'importe comment.
Je vais t'envoyer un Space Mountain dans la gueule, là,
Non, mais c'est gentil, tu sais, mais ça prend du temps à monter quand même. Quoi.
Non, mais en fait c'est.
Il faut attendre 45 minutes avant d'envoyer les Space Mountain parce qu'il faut faire la queue et tout ça.
En fait, plus précisément, quand un combat démarre, quand il y a des ennemis qui apparaissent, là, typiquement, ce qu'on voit à l'écran, c'est juste. Mais je trouve ça aberrant qu'on le montre à l'image. C'est juste. Enfin, qu'on le montre à l'image, que Square Enix le montre dans ses trailers.
Non, je peux dire que c'est Poufy.
Poufy n'y est pour rien.
Il connaît tout par cœur, Poufy.
Voilà. Donc les attractions, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de groupe, je sais pas, il y a 10 ennemis qui apparaissent, des sans-cœurs ou des simili. Et il y a un sans-cœur qui est une espèce de cercle vert qui se réduit. Et il faut le taper. Enfin, en fait, il faut le taper avant que ce cercle vert disparaisse. Et quand tu le tapes, Il y a l'espèce de timer qui apparaît juste en bas de la jauge du menu de combat. Et en fait, tu peux cumuler toutes les actions que tu peux faire en combat juste au-dessus du menu. C'est-à-dire que tu peux cumuler les coopérations, les attractions, et c'est toi qui décides quand tu décides de les enclencher, en fait. Et si tu ne veux pas les enclencher, t'as juste à laisser le timer se réduire à zéro et l'action disparaîtra.
C'est un système de furie, en fait, quelque part.
Oui, voilà, c'est une espèce de système de furie.
Tu fais monter une jauge avant de balancer la sauce.
Exactement, voilà, exactement. Et t'as différents types de... Enfin, comment dire... Différents critères pour faire augmenter ces jauges et pour utiliser ces différentes features de gameplay. Et pour moi, ce qui semble... Parce que l'attraction, ça reste quand même relativement accessoire et... Ce que je mets dans le test, c'est que ça peut gêner à la visibilité du jeu parce qu'il y a tellement d'éléments à l'écran et que c'est vrai que tu as l'impression que c'est très difficile de suivre. En vrai, quand tu es en combat, ça reste assez évident, mais bon. Et ce qui pour moi est la nouveauté de gameplay, la nouveauté de gameplay majeure de cet épisode, c'est vraiment la possibilité de changer de Keyblade en combat. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment une Keyblade qu'on changeait dans
Donc la Keyblade qui est l'arme de Sora.
Voilà,
en fait.
Oui, je précise, excusez-moi, qui est l'arme de Sora, qui est l'espèce d'épée en forme de clé. Donc il y a une importance pour le scénario, mais je ne vais pas revenir dessus. Et donc, tu peux changer. Donc avant, tu étais obligé de garder la même en combat. Là, tu peux changer pendant le combat, sachant qu'en plus, ces Keyblades changent de forme. Plus tu tapes avec, plus elles peuvent changer de forme. Et pareil, tu la déclenches quand tu veux, le changement de forme. Tu peux rester avec la forme normale.
Ça crée un système de combos spéciaux.
Exactement. Tu as des systèmes de combos spéciaux. Je pense notamment à celle dont je me souviens le plus, la Keyblade de Monster et Compagnie. La Keyblade de base est assez classique, avec inspirée de Monster et Compagnie, avec des éléments mécaniques. Quand tu la fais évoluer, elle se transforme en une espèce de griffe-pince qui te permet de choper les ennemis. Quand tu la fais évoluer encore, elle se transforme en une espèce de yo-yo et voilà, qui te permet d'atteindre des ennemis plus éloignés, et puis après tu as une sorte de finish. Donc voilà, tu as énormément d'éléments de gameplay, donc je les passe en revue un peu comme ça.
Ça rend le système de combat beaucoup plus attrayant qu'avant.
Beaucoup plus attrayant qu'avant, même si voilà, ces éléments sont venus petit à petit. Il y a surtout les attractions et la possibilité de changer de Keyblade qui est apparue avec cet épisode. Mais voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est que on peut avoir ce sentiment, moi j'avais ce sentiment quand j'ai testé le jeu en mai à Los Angeles. Ouais. C'est vraiment ce sentiment de trop plein, parce que moi quand on m'a fait tester le jeu, quand j'avais pour la première fois le jeu en main, j'avais accès à tous ces éléments de gameplay d'un seul coup. Le jeu te les présente de manière un peu plus progressive que
Bien sûr. Voilà. Ouais.
Donc ça arrive petit à petit et finalement t'as pas ce sentiment trop plein quand tu joues au jeu.
C'est comme moi la Gamescom quand j'avais essayé Assassin's Creed Odyssey.
Ouais.
Et vous êtes au chapitre 14, vous avez 20 minutes.
Exactement. Il m'avait fait le combat contre Médusa.
Médusa.
Qui est genre l'un des tout derniers combats du jeu. Level je sais pas combien.
Je crois que c'est level 50 dans le jeu. C'est la dernière créature mythique que tu peux
fait
l'année.
J'avais honte là dans mon petit.
Effectivement, quand tu y arrives. Voilà. Normalement, t'as 50 heures faciles dans
là,
les mains.
Tu l'enchaînes quoi. Enfin bon, voilà. Bref.
Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur le jeu, pour terminer sur le jeu, si tu avais des choses à dire aussi, c'est que effectivement, on m'a posé la question en dessous dans les commentaires du test. Il y a énormément d'éléments scénaristiques qui risquent de perdre celui qui se lance dans la saga.
C'est ce que j'allais te demander. Si moi, par exemple, là, tout de suite, je me dis tiens, j'ai envie d'essayer Kingdom Hearts 3. J'ai jamais joué. J'ai essayé Kingdom Hearts 1 à l'époque. J'avais trouvé ça fastidieux, donc ça m'avait totalement rebuté. Et là, je suis pas hypé, mais là je me dis tiens, pour passer le temps, je vais commencer Kingdom Hearts 3. Est-ce que vraiment tu le conseilles à un néophyte de la saga, que ce soit scénaristiquement ou d'un point de vue du gameplay?
Alors d'abord, est-ce que tu as lu le dossier fabuleux de Philippe dans lequel il retrace absolument toute l'histoire de Kingdom Hearts?
Écoute, non.
Et bah tu vas
le faire.
Tu sais
pourquoi?
Voilà, et peut-être qu'après tu pourras poser la question sereinement.
Parce que je pense que, quoi qu'il arrive, je n'arriverai jamais à assimiler ce qui s'est passé dans cette saga qui passe du numéro 1,5 au 2,7 Alpha Plus.
C'est très bien expliqué par Philippe, qui ne peut pas sauver un scénario qui part dans tous les sens, mais qui le
dans des circonvolutions, on va dire. Mais oui, en fait, effectivement, pour le dire très clairement, tu peux prendre du plaisir au niveau du gameplay, tu peux prendre du plaisir sur l'exploration,
les mondes Disney.
Enfin, après faut pas se mentir, faut aimer un peu
vas rien comprendre à l'histoire,
oui,
si tu vas
l'intrigue principale, ce qui lie les mondes et ce qui voilà, tout ce qui tourne autour du personnage de Xehanort. Bon, ça a parlé surtout aux fans, ça c'est sûr, tu vas rien comprendre.
Mais d'ailleurs, la quête c'est quoi à la base? la quête de Sora.
Vraiment, là, ça va être compliqué de t'expliquer, mais
son but de là, je vois qu'il part avec Donald et avec Goofy. Ils vont faire quoi Ils vont faire quoi exactement?
Bah, d'abord, ils vont faire un barbecue.
Il leur arrivait quoi?
C'est Infinity War, si tu veux, mais en gros, c'est il essaie de retrouver ses pouvoirs, notamment un qui lui permet donc le pouvoir de l'éveil qui lui permet de retrouver ses amis perdus. Mais en fait, encore une fois, ce qui est particulier avec Kingdom Hearts, c'est que non seulement c'est difficile à expliquer parce qu'il y a énormément d'éléments d'intrigue, mais
attends, Philippe, si je puis me permettre, moi qui connais bien la série,
permets-toi,
le but du jeu, c'est de sauver les mondes.
Oui, c'est de sauver.
Voilà, si ça peut répondre à ta question.
Okay, ça me va.
Ça te va, ça?
Ça me va.
Voilà, heureusement que je suis là, quand même.
S'il y a, c'est que le jeu, en plus de ça, aborde énormément de symbolique. C'est un jeu qui est extrêmement symbolique, qui parle de lumière et de ténèbres, et c'est pas juste la lumière du projo et les ténèbres. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très
imagé.
Il
y a une interprétation à
Qui est très allégorique en fait, et qui est difficile à expliquer parfois parce que.
Mais c'est un jeu pour dépressif en fait
on peut le résumer comme ça. Non, ça reste quand même quelque chose qui est justement porté sur l'espoir. Effectivement, c'est pas non plus. Ça reste un jeu avec des univers Disney.
Mais ça va mal quand même.
Mais effectivement, ça va mal. Les ténèbres essayent de s'emparer, en gros, pour résumer très très schématiquement, essayent
des
de s'emparer
des
différents mondes. Même si c'est encore une fois beaucoup plus nuancé que ça, mais voilà. Donc effectivement, c'est très dur à suivre pour les fans. Après,
et pour un enfant.
Pour un enfant,
qui serait attiré par les mondes Disney.
Bah en gros, il va suivre les mondes Disney, donc il représente quand même 4/5 du jeu. Enfin voilà, faut pas se mentir. Après, sur tout le reste, sur les 5 dernières heures.
Sur le scénario un peu méta.
Alors j'évoquais le méta, ça reste, ça représente pas tout le jeu non plus, hein. C'est vraiment à la toute fin du jeu qui est personnellement l'apogée de la saga pour moi, hein. Les 5 dernières heures de jeu, c'est...
Mais justement, il y a quelque chose sur lequel t'es pas vraiment revenu, c'est qu'il faut bien que les gens qui nous suivent s'en rendent compte, t'es un fan absolu de la série, et comme beaucoup de fans absolus de la série, t'attendais ce 3ème épisode impatiemment parce qu'il est censé conclure cette histoire. Et en dehors donc du gameplay, de la réalisation et même de l'histoire telle qu'elle est racontée, est-ce qu'on peut y jouer quand on n'a pas joué au précédent, etc. Toi, en tant que fan, est-ce que ce 3ème épisode t'a apporté ce que tu souhaitais voir la série t'apporter?
C'est exactement la question que je me suis posée à la fin de mon test. Je me suis dit, est-ce que je peux imputer au jeu le fait que ce n'est pas compréhensible pour ceux qui n'ont joué à aucun des précédents?
Mais non, tu t'en fous, c'est
après,
pour toi le jeu.
Effectivement, je me suis dit, mais non, enfin, on va pas critiquer, je sais pas, comme je disais dans les commentaires, une saison de Game of Thrones parce que c'est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas vu les saisons précédentes.
Bah, évidemment,
en fait,
absolument.
Il faut suivre. Malheureusement entre guillemets, il faut suivre, et justement je pense que les compilations étaient prévues pour
et donc,
ça.
Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos-là, toi en tant que fan, en parlant aux gens qui nous écoutent, qui sont fans également, sur le...
Moi qui ai joué à tous les épisodes précédents, les 9 épisodes précédents, à aucun moment j'ai été perdu. Ça il faut le dire, à aucun moment j'ai été perdu. À de rares occasions je me suis dit, attends, de quoi il parle déjà?
Ah oui,
Wikipédia. Ah, okay,
alors
d'accord.
Wikipédia, attends, c'est ça. Et du coup, la page de l'autre jeu d'avant. Et du coup, la page de l'autre jeu d'avant.
Non, parce que il faut dire aussi une chose, c'est qu'ils ont
un onglet par jeu.
Ils ont Tetsuya Nomura, le goût du mystère, et que ils aiment bien utiliser les pronoms plutôt que parfois que de nommer les personnages. Attends, elle, tu parles de qui déjà? Parce qu'il y en a plusieurs des elles, et là, il y a plusieurs scènes du scénario qui se passe, et voilà, c'est un peu dur à suivre. Mais non, moi qui ai joué à tous les jeux. Il faut dire aussi que je me suis plongé replongé dans la saga. J'ai appris des choses en faisant le dossier. Je me suis replongé dans la saga, donc forcément, ça me parle. Et j'ai eu un véritable plaisir de fan. À chaque fois qu'il y avait un petit élément, je me dis, putain, ça fait référence à ça, ça fait référence à ça. Et c'est extrêmement jouissif. Après, en vérité...
Alors ça, c'est dans le déroulement du jeu. C'est-à-dire le fanservice disséminé un peu partout. Ah, il y a ça, il y a ça. Et sur la conclusion?
Non, mais justement, en fait, quand je dis qu'il y a ça, il y a ça, c'est pas juste il y a ça, il y a ça, il y a ces références. Non, c'est vraiment... enfin, on répond à ces questions-là.
Ah oui, c'est des explications.
Oui, c'est des explications. C'est vraiment... mais encore une fois, quelqu'un qui aurait pas joué, par exemple, à l'épisode 3DS qui s'appelle 358 sur 2 jours, 2 days. Je sais pas comment... Même moi, je sais même pas comment prononcer ce titre.
J'ai regardé une vidéo vidéo juste sur ce truc là il y a pas longtemps. Ah ouais, justement il y a une, il y a une prononciation officielle de la part de Square Enix,
pour le coup,
que j'ai oublié, mais c'est genre divide by two
Oui, enfin voilà, pour le coup ça, le titre est assez absurde, je le reconnais.
Non, parce que d'habitude dans la série les titres sont hyper
très classiques.
Non, parce que celui-là c'est vrai que mais les autres ils sont nickel quoi, il y a pas de
ceux de la compilation c'est un peu compliqué aussi, mais voilà, si t'as pas joué à précisément à celui-là, il y aura certains éléments qui vont t'échapper, mais tu comprendras l'essentiel de l'histoire. Disons qu'il y a vraiment 4 épisodes majeurs, si je peux les nommer brièvement, c'est Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Birth by Sleep, qui est l'épisode PSP, et Kingdom Hearts Dream Drop Distance, qui est l'épisode 3DS. Si vous avez joué à ces 4-là, vous allez comprendre l'histoire, en fait. C'est juste, voilà, il y a des éléments qui vont vous échapper, mais voilà. Après, effectivement, si t'as joué à aucun Kingdom Hearts, ouais.
C'est pas forcément pour toi.
Disons que c'est pas forcément pour vous. Vous allez prendre du plaisir à visiter les mondes de Pirates des Caraïbes, la Reine des Neiges. Vous adorez la Reine des Neiges, mais
d'ailleurs, t'as pas parlé des mondes de Ralph. Moi, je fais partie des gens qui ont bien aimé les mondes de Ralph.
Le monde de Ralph.
Ah oui, d'accord, ok. ça critique Star Wars et ça vient parler des mondes de Ralph.
Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt habile les mondes de Ralph. Mais du coup, tu sais, il y a plein de références à l'intérieur des mondes de Ralph sur Street Fighter, sur tout un tas de jeux, sur les jeux Nintendo, etc. Est-ce que du coup, ils ont gardé ça dans les mondes de Ralph?
Alors,
je suis désolé de faire une petite.
Alors tu vas être déçu parce que les mondes de Ralph, le Ralph est une invocation mais n'est pas un monde. C'est en fait c'est juste une invocation que tu acquiers assez tôt dans le jeu d'ailleurs, au même titre qu'Ariel, Simba ou d'autres. Donc qui est assez particulière parce que ça se présente comme une espèce de tower defense en fait. Quand tu invoques Ralph, j'ai pas vu le film pour le coup. En fait tu fais apparaître des espèces de briques.
Bah oui.
C'est
son rôle dans le jeu dans lequel il est le méchant en fait.
D'accord.
Il est le méchant d'un jeu.
C'est un rampage en fait. C'est méchant d'un rampage.
D'accord.
Et il supporte pas d'être méchant. Voilà.
D'accord.
Ça le fait chier maintenant. Il en a marre de péter
des briques.
Et
de briques qui tirent des espèces de lasers. Ouais. Et une fois que tu l'enclenches, ça tire les lasers sur les ennemis. Mais...
Ouais, donc même l'invocation de Ralph, en fait.
T'as trouvé ça aussi nul que ça?
Ah, mais je sais même pas comment j'ai fait pour le regarder jusqu'au bout.
Bon, vraiment, c'est un peu sévère comme jugement.
Il y a un autre point négatif sur lequel t'es pas revenu, et pour le coup, moi qui ne connais pas la série, je partageais complètement ton point de vue, et je crois que toi aussi, Julo, c'est le thème. Pour le coup de cet épisode, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts avant, mais j'adore le thème du 2. C'est une musique absolument magnifique.
Passion,
là, on est toujours avec Utada Hikaru, mais remixé par Skid Rex.
Mais elle chante en anglais déjà.
Alors je crois que, si je dis pas de bêtises encore une fois, je crois que c'est elle qui chante en anglais dans les... Parce qu'il y avait les versions japonaises et anglaises, en tout cas sur le premier, donc c'était Ikari.
Moi ce que j'adore c'est Ikari.
Ouais, Ikari, donc ça c'est celle du premier, ça, c'est celle du premier.
Il est extraordinaire celui-là, c'est mon préféré.
Mais en fait c'est d'autant plus dommage parce que personnellement j'adore les thèmes du premier et du deuxième, et que là on se retrouve avec une espèce de bouillie, je dirais même pas techno, mais très... qu'est-ce que fait Skrillex, c'est du... comment s'appelle du...
Là il met des touches électro,
du dubstep, je trouve que ça détonne avec l'univers qui est justement très assez féerique somme toute, et très relativement familial quand même, et ouais, je trouve que ça détonne, et vraiment la vidéo d'introduction est magnifique comme toujours en fait, mais personnellement je me suis bouché les oreilles pendant 2-3 minutes, voilà. Personnellement, ça vaut pas que je m'arrive à un point, ça dure 3 minutes au début du jeu, donc voilà.
Et puis la composition, on a oublié de le dire, mais il y a aussi Yokoi Shimomura qui reprend en partie son rôle
sur
la série,
qui est accompagné j'oublie les noms de ces Takeharu Ishimoto, qui a œuvré je crois sur Dissidia si je dis pas de bêtises, et un autre compositeur qui a dont le nom de famille est Sekito je crois, mais le prénom j'ai oublié.
Robert je pense.
Robert Sekito, je crois que ça colle bien. Ils ont œuvré ensemble sur la saga depuis plusieurs épisodes déjà, et effectivement on a une BO beaucoup plus orchestrale, tandis que je fais bailler
Julo. C'est pas toi, vraiment.
et donc voilà. Donc clairement, les fans ne seront pas déçus, surtout ceux qui attendaient...
Et le grand final, je suis désolé, j'insiste.
Et le grand final...
Parce que j'imagine moi arriver un jour au bout de l'histoire de Shenmue, par exemple, et me dire, putain, ça se finit comment? Tu peux être déçu, quoi.
Pour être plus précis...
Même si le développement du jeu a été bon, arriver à la fin, tu peux te dire, putain, merde, non, c'est naze la façon
dont
ça se termine.
Mais il faut savoir que pendant tout le jeu, j'ai été, on va dire... mon cœur balançait entre, parce que j'ai toujours la note qui trône au-dessus de ma tête.
Ah, c'est chiant ça.
Ouais. Pendant que je jouais, donc je balançais très sincèrement entre 8 et 9. Et c'est vraiment le final qui m'a fait porter jusqu'au 9 parce que.
Bon, Philippe, soyons sérieux.
Ouais.
Mais Traz n'est pas là, il peut pas te donner de coup de latte. T'as pleuré ou pas?
Non, parce que j'ai pleuré qu'une fois, je crois, devant un jeu vidéo, c'est Metal Gear Solid 3. La fin de Metal Gear Solid 3, sinon je pleure très très rarement.
C'est vrai. Bon, ça ouais. méritera quand même un coup de latte, je pense, de la ah part ouais. de Traz, parce qu'il ne pardonne rien.
Il n'aime pas qu'on pleure devant les jeux vidéo.
C'est ça. En jeu non plus, d'ailleurs.
Donc voilà. Mais du coup, j'ai
oui, donc le final, quand
oui, le final est grandiose et assez et très très poétique. Alors je peux vraiment rien en dire parce
bien
que
sûr.
Ça spoil.
Surtout, on va pas spoiler, bien
mais,
évidemment.
Mais qui aborde des éléments jamais vus dans la saga et notamment, je le disais tout à l'heure, le quatrième mur qui est un petit peu égratigné pour la première fois dans la saga et de bien belle manière, on va dire. Voilà.
Ok.
Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur Kingdom Hearts.
Ton test est disponible, les gens peuvent aller le lire si c'est pas déjà fait. Ils peuvent effectivement, pour ceux qui voudraient donner une chance à Kingdom Hearts 3 et pas se retaper les 4 épisodes dont tu as parlé tout à l'heure qui sont indispensables pour pouvoir comprendre toute l'histoire, et bah se replonger dans ton dossier. On a également publié un dossier qui s'appelle Le Point sur toute la série, je crois.
Ouais, Retour sur la série.
Retour sur toute la série avant Kingdom Hearts 3.
Mais il y a une vidéo normalement avant dans le jeu.
Oui,
j'ai oublié
de préciser. Effectivement,
ah, oui.
C'est une vidéo que. Alors, c'était pas présent quand j'ai commencé à jouer, mais qui, après une mise à jour, est arrivée. Alors, c'est très court.
Elle aide beaucoup cette vidéo ou pas
Alors, c'est 5 vidéos, 5 petites vidéos qui, en tout, ça fait 20 minutes.
Ah oui, ah, c'est celle que j'ai matée ce matin.
C'est 5
vidéos de 2 minutes 30, un truc comme ça.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est pas ultra clair. Hein.
C'est très condensé et alors c'est plus un rappel.
Tu les as regardés, Thomas ?
Ouais.
Et t'as compris ou t'as pas compris ?
C'est plus un rappel.
Bah c'est très bref en fait.
Enfin, c'est très trop bref.
Si c'est censé résumer plusieurs épisodes, tu te dis ah oui, il s'est passé que ça en fait.
T'as l'impression qu'il y a un tourbillon dans ton cerveau quand t'as vu des trucs. Tu dis merde, attendez.
Non, non, mais c'est vraiment hyper succinct. Moi je m'attendais à un truc.
Non, c'est beaucoup trop succinct.
Coco, on va s'occuper de toi, tu vas comprendre comment ça se passe et tout. Non, c'est. Je pense qu'il faut quand même avoir la référence en tête déjà.
Faut quand même lire le dossier de Philippe.
Non, mais exactement. Pour le coup, pour faire le dossier, je me suis tapé des vidéos de 3 heures pour chaque épisode, enfin des trucs assez intenses. Donc voir une vidéo de 20 minutes, enfin plusieurs vidéos qui font 20 minutes en tout, pour résumer les 9 épisodes qui ont précédé, tu fais, bon, c'est un peu léger. Mais pour revenir d'ailleurs sur le dossier, je regrette de ne pas avoir pu tester le jeu un petit peu avant, parce que effectivement j'aurais pu avoir, parce que c'est aussi un dossier pour préparer à Kingdom Hearts 3, j'aurais pu avoir quelques éléments scénaristiques. J'aurais pu savoir ce qui aurait pu être un petit peu plus utile pour préparer à Kingdom Hearts 3. Bon, au final,
le mettre en gras dans le
texte. Oui, voilà,
le
mettre en gras. Voilà, cet élément-là, souvenez-vous-en, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le jeu, parfois, ils évoquent des éléments. Enfin, je pense notamment à un élément à la fin du jeu, je peux pas l'évoquer, mais sont tellement dérisoires qu'on évoque, par exemple, que dans l'épisode mobile. Je suis là, mais,
et qui deviennent du coup importants au regard de ce qui se passe dans.
Ils sont pas non plus importants, qui restent, on va dire juste évoqués, mais qui sont là et qui apparaissent, enfin qui ne vont parler qu'à 10% des joueurs. Donc voilà. Mais c'est pas handicapant non plus. On peut jouer à Kingdom Hearts en ayant joué qu'aux principaux épisodes. Voilà.
Bon.
Voilà.
Eh bien, ça donnerait presque envie de s'y mettre. Hein.
Ah bah vas-y, on te regarde.
Tout est dans le
presque. Oui, on te regarde, toi qui te fous de la gueule de Kingdom Hearts tous les jours.
D'ailleurs, tu disais qu'il dure 30 heures environ. C'est une durée classique pour la série ou en général,
oui, c'est
ils étaient plus courts ?
Alors, faut savoir que à la base, je déteste binge jouer, tu vois.
Ouais.
C'est vrai que les jeux Kingdom Hearts, je les faisais plutôt en 40-45 heures. Mais pour les avoir refaits récemment, il y a 2 ans, les Kingdom Hearts, les premiers Kingdom Hearts, en vérité, c'est à peu près dans les canons de la série. Enfin, c'est. Tu fais un Kingdom Hearts en une trentaine d'heures, l'épisode principal en tout cas, une trentaine d'heures, c'est à peu près ce qu'il faut. Sachant qu'il faut souvent compter le double, voire le triple pour tout faire. Sur celui-ci, je dirais pas que tout faire te vaudra 100 heures de jeu non plus. Mais ouais, il faut bien compter, je pense, une cinquantaine, soixantaine d'heures de jeu pour écumer les
différents. Parce que la structure du jeu est faite pour que tu puisses retourner dans d'autres mondes
pour les
terminer.
Oui,
etc.
Bien sûr.
C'est un système de quêtes annexes, un truc comme
oui,
ça.
Oui, tu as les quêtes. Alors, je les évoque dans le test. Mais oui, effectivement, tu as les emblèmes à chercher. D'ailleurs, oui, les emblèmes, il faut que j'en parle pour conclure quand même. Les emblèmes, c'est des espèces de têtes de Mickey qui sont disséminées dans le
décor, comme dans les longs métrages Disney, en fait.
Et, effectivement, voilà, exactement. Exactement, qui sont dans les décors des mondes et que tu dois prendre en photo. Alors, je reviens pas sur cette histoire de photo parce que tu as une espèce de
quand tu les repères,
exactement.
Tu pouvais te faire des selfies d'ailleurs.
Ah, ouais, voilà, tu peux prendre des selfies. Bon, ça, je suis pas trop fan de ce genre d'incursion d'éléments de la réalité dans les jeux comme ça, mais bon, bref.
Oh, t'es un vieux con, quoi. Ouais.
Exactement, ouais. Exactement. Mais voilà, en fait, le fait de prendre en photo ces emblèmes te permettra de visionner. Je crois que c'est toi qui avais fait la news,
exactement.
La vidéo de fin supplémentaire qui va apparaître dans les jours qui viennent. Alors je sais pas quand est-ce que va être diffusé ce podcast, mais je crois le 30 ou 31.
On a fait la news sur le sur le timing exact, le calendrier exact.
Tu peux réexpliquer ce principe.
En gros,
il y a l'épilogue et la fin secrète qui doivent arriver.
Exactement.
Alors, parce que l'épilogue le 29, je crois, et la fin secrète le 30.
Effectivement, quand tu finis le jeu, il y a juste deux petites interrogations qui te restent. Tu dis. Ok, ça j'aimerais bien avoir la réponse, mais voilà. Et donc il y a quand même plusieurs fins dans le jeu, il faut rester jusqu'à la fin du générique, etc. Mais il y a la véritable fin apparemment qui arrive dans les jours qui viennent. Et pour l'obtenir, c'est pour ça que je parle de ces emblèmes fétiches, il faut prendre un certain nombre de photos de ces emblèmes fétiches. Sachant que ça dépend du mode de difficulté dans lequel tu es. C'est-à-dire que si tu es en mode facile, tu dois prendre en photo tous les emblèmes, retrouver tous les emblèmes. Si tu es en mode standard, c'est le mode dans lequel j'ai joué, tu dois reprendre en photo, alors je sais pas exactement, on n'a pas encore le nombre exact.
C'était pas chiffré quand
voilà, c'était pas chiffré.
Bref, tu vas devoir recommencer le jeu quoi.
Voilà, non,
il va aller les chercher.
Tu vas devoir retourner dedans, aller chercher tous les trucs quoi.
Tu peux retourner dans les mondes très facilement, tu peux être en cours de monde et quitter le monde et aller à réponse, ah, j'ai pas envie de finir celui-là, je vais retourner à l'autre, etc. Et quand t'es en mode difficile, tu peux, je crois qu'il y a que la moitié ou un truc dans le genre,
c'est
pas exactement.
C'est une partie aussi, ouais, partie, la totalité n'était que pour les joueurs qui auraient opté pour le mode facile.
Exactement. Donc voilà, donc à voir ce que vaut cette scène finale. Moi,
donc,
personnellement,
si vous voyez
j'ai
des têtes de Mickey,
pu...
vous les prenez en photo, c'est
exactement.
Très important.
Et elles sont très bien cachées d'ailleurs, parce que les premières sont super faciles à trouver. Tu les trouves, enfin, tu vois des grosses têtes de Mickey, et puis après, tu fais. Enfin, c'est juste deux rochers, tu vois, que tu. Deux petits rochers et un gros rocher, tu fais. Ça ressemble un peu à une tête de Mickey, je suis pas sûr. Je vais sentir mon truc. Ouais, je sors mon truc, je fais. C'est facile de s'aligner. C'est-à-dire que dès que tu sors le truc, t'as le focal qui se met sur le machin. Mais
comme dans les films, hein, y en a des assez bien planqués.
Ouais, ouais. Des symboles phalliques aussi. Dans
évidemment.
Les films Disney.
Dans les nuages.
Ouais, exactement.
Et des femmes presque nues aux fenêtres de certains immeubles.
Bernard et Bianca, je crois.
Exactement. Ouais. Monsieur connaît ses classiques.
Je suis connaisseur. Donc voilà.
On regarde pas les Disney pareil, toi et moi.
Je l'ai pas vu depuis un moment, cela dit.
Ah ouais, non, mais je vois très bien. Toi, tu cherches les symboles phalliques, moi je regarde, regarde
plus,
dans Disney. Quoi,
et en plus, si, parce que Bernard et Bianca, je l'ai maté dans l'avion quand on est allé à Los Angeles avec Romain.
Extraordinaire, voilà. Bernard et Bianca.
Eh bien, c'était un joli petit tour. Quelque chose à ajouter, mon cher Philippe? Ah, peut-être une question, quand même, pour finir.
Dis-moi.
C'est quoi la suite des aventures de King
Alors Lamar, oui, justement, tu as évoqué... alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement.
Là, on va dire cette histoire avec Sora est définitivement...
Et
fermé.
D'ailleurs, oui, quand j'avais posé la question pour l'interview avec Tetsuya Nomura, effectivement, j'avais posé la question, enfin, je sais plus quelle était la question exactement, mais il m'avait repris en me disant, alors, c'est la fin de l'histoire de la saga Xehanort, ce qu'il appelle la saga Xehanort. Le Xehanort qui est le grand méchant, en gros, pour résumer.
Ah, donc ça exclut pas que Sora...
Voilà, ça exclut pas que Sora, d'autres personnages...
Donc en fait, c'est pas du tout fini,
fois,
quoi.
On sait pas.
Non, c'est la fin d'un arc, a priori.
Voilà, la fin d'un arc, sachant qu'à la fin, il y a quand même un côté très résolution. C'est-à-dire que tu ouvres pas, comme la plupart des épisodes, sur autre chose. Il y a vraiment... après, je sais pas, peut-être que cette fameuse scène finale qu'on n'a pas encore va ouvrir sur autre chose. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas...
Et comme elle sera sortie d'ici là, les gens dans les commentaires pourront dire « Ah, oh, mais quel con ! C'était évident pourtant !»
Effectivement, mais bon, pour l'instant, là, je peux pas me porter...
En tout cas, Tetsuya Nomura ne compte pas arrêter de faire des Kingdom Hearts.
Non. Par contre, il compte éventuellement, je sais pas si la news est... Je crois que la news est sortie sur Gameblog. Il était un peu vanné de voir
les leaks.
Les leaks sur le jeu. Et donc, il commence à se demander s'il va pas arrêter de sortir les jeux en sortie simultanée dans le monde pour justement, alors je sais pas en quoi ça empêcherait la ligue de sortir, parce que si le jeu sort avant au Japon, t'as tout qui sera sur YouTube, donc
ouais, mais en fait il veut pas que ça ligue pour les Japonais.
Ouais.
C'est ça que ça veut dire.
Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, ça,
les autres, ils s'en foutent.
Ouais, ils s'en foutent complètement. Ouais, ouais, c'est dommage. Et
il accuse en fait la mondialisation, l'Occident, quoi.
Ouais.
Quelque part.
Salaud de Gaijin.
C'est un peu dommage. Après, si ça peut remettre là pour remettre. Et en plus, ça me fera une petite transition. J'ai oublié d'évoquer un élément qui fait un peu rager aussi pas mal de monde. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça peut permettre d'avoir éventuellement une VF, de travailler sur une VF, le temps de sortie, le temps de délai, pourquoi pas. Justement, je reviens sur cette VF.
Les tweets haineux, c'était toi ?
Comment ?
C'est la pétition.
Ah non,
la
non, pétition, non. Je crois avoir signé la pétition en sachant très bien que ça aboutirait pas. Ça faisait partie de mes défauts, de mes points négatifs quand j'avais fait le test de la compilation il y a 2 ans. Parce qu'en fait, les jeux étaient en français à la base et ne l'étaient plus. Donc pour moi, il y avait un manque, entre guillemets, enfin tu perdais un truc. Quoi.
Cohésion.
Voilà. Avec ce Kingdom Hearts 3.
De cohérence, pardon.
Avec ce Kingdom Hearts 3, je suis parti du principe que, en vérité, ça fait 13 ans qu'on n'a plus de VF. Et surtout, ça fait la voix anglaise est vraiment excellente. Alors, juste pour situer le truc, dans toute la saga, on a quand même eu Mark Hamill, Rutger Hauer dans cet épisode, Leonard Nimoy, donc quand même des grosses pointures. Donc ça reste quand même quelque chose de très très quali.
Et puis les doubleurs de Disney aussi par moment.
T'as une vision un peu élitiste, intello du truc. Là où le grand public, en fait, tout ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui se passe sans avoir à lire des sous-titres, en fait.
Bien sûr. Non mais bien sûr. Non, mais c'est
une vision élitiste comme t'y vas quand même. Je trouve que t'exagères, hein, toi, des fois. Tu parles de respect tout à l'heure, mais monsieur, s'il vous plaît.
Je participe à cette vision.
Effectivement, et en plus, on sait que les. Bah, ça reste quand même un jeu avec des mondes Disney. On sait que des enfants peuvent vouloir jouer à ce jeu parce qu'ils voient. Et voilà. Donc ça pose effectivement problème de ce point de vue-là.
Sans VF, oui, un enfant, malheureusement. Alors que pour moi, les enfants devraient être les premiers ciblés par ce type de jeu avec les mondes Disney. C'est vrai que c'est un peu problématique de ne pas avoir de doublage français.
Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas cracher a priori sur la VO.
Sur la qualité.
Enfin, sur la VA.
On peut déplorer effectivement l'absence de VF depuis 13 ans sur la saga, mais ça n'implique pas effectivement de cracher sur la VO qui est pour moi très très bonne. Donc voilà, c'était juste le
bien
dernier.
Bien sûr. Bon. Voilà. Quelque chose à ajouter, messieurs ?
Pas du
avant
tout.
Que nous passions à la suite de ce podcast et que nous nous dirigions tranquillement vers la conclusion de celui-ci ?
Rien à ajouter,
votre honneur.
Très bien, et eh bien merci Philippe. N'hésitez pas vous-même à utiliser les commentaires de cette news dans laquelle se trouve le podcast pour nous dire ce que vous avez pensé, vous, de ce troisième épisode. Est-ce que Philippe se plante complètement ou est-ce que vous validez totalement ses thèses ? À vous de nous le dire. Et désormais, on passe à la suite de ce podcast et à la rubrique anniversaire avant qu'on se lance sur le hors-jeu qui conclura l'émission. Eh bien, c'est l'anniversaire, figurez-vous, cette semaine, mon cher Plume, de Mass Effect 2.
Absolument, le meilleur.
Quel âge qu'il a ?
Eh bien, il a 9 ans, absolument, c'est ça. Il est sorti le 26 janvier 2010 aux États-Unis et le 29 chez nous, en Europe. Donc, on est en plein dedans, hein, 9 ans pour le deuxième épisode de Mass Effect, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur. Et
par
moi-même aussi, hein, j'ai fait la trilogie Mass Effect, j'ai pas encore fait Andromeda.
Mais par contre, tu fais partie de ceux qui ont craché, pissé et chié sur la fin du 3 ou
pas ? Bah oui, parce qu'elle était mauvaise. Okay. Enfin, et on me disait, tu verras, les choix que t'as fait avant, ils ont une importance sur la fin. Oui, ok, ils ont une importance sur la couleur du rayon qui détruit la galaxie. Merci.
C'est vachement
bravo,
important,
les gars.
Ça.
Super. Je faisais pas partie des gens qui voulaient une pétition pour changer la fin, hein,
mais j'avoue que j'étais. Ils ont changé au final.
Oui, ils ont fait un petit DLC ensuite pour changer les trucs, mais je crois pas qu'ils aient changé quoi que ce soit en fait. Bref, la fin m'allait, mais j'avoue que le côté. Oui, c'est important, hein, tout ce que t'as fait avant, t'inquiète pas. Hein. Bon, c'était un peu passé à la trappe. Le 2. Revenons un peu sur le 2, c'est peut-être l'aboutissement même du travail de BioWare qui a toujours eu la même formule depuis Baldur's Gate, si je ne m'abuse, qui a toujours fait le même jeu. Pour moi, BioWare a toujours fait le même jeu, avec toujours la même façon de construire son jeu. Mais je pense qu'avec Mass Effect 2, avec son début, qui était ultra surprenant, parce qu'ils osaient faire un truc avec le héros que tu t'étais tapé dans le premier épisode, qui maintenant je spoil, mais on s'en fout, bon, il claque quoi. Et là tu te dis quoi, tu te fais quand même une séquence où le Normandie est pris d'assaut, où tu dois essayer de t'échapper le plus vite possible, t'en réchappes pas. Et ça, c'est quand même un sacré choc déjà dès le départ de voir que ton héros meurt. Bon, après évidemment il y a une pirouette qui fait que tu le retrouves, qu'il est toujours vivant, et que tu rencontres un personnage extraordinaire, vraiment. Pour
Miranda, là,
non, ça sera pour plus tard, ça. Un personnage assez extraordinaire pour la saga, qui est l'homme trouble, qui était doublé en anglais par Martin Sheen, quand même, acteur ô combien respectable, et que tu vas te retrouver finalement dans un scénario qui pourrait être bateau, si tu le dis juste comme ça, c'est tu vas recruter les personnes les plus badass de la galaxie, ceux qui vont t'aider à affronter une menace dont t'as pas encore vraiment idée au début du jeu, même si tu penses l'avoir affronté dans le 1. Ce sont les récolteurs et ensuite les moissonneurs qui sont des ennemis bien plus puissants que ce que tu peux imaginer, et tu vas rencontrer une galerie de personnages parmi lesquels tu vas tomber vraiment sur des persos qui sont magiques. Je pense à ce tueur, je crois que c'est Thane, qui est
Krios,
qui a une histoire personnelle qui est extrêmement touchante et qui est lui une vraie machine à tuer. Je pense alors sujet 0 c'est dans celui-ci ou c'est dans le 3?
Sujet 0 tu parles de Jack là?
Ouais,
Jack ouais. C'est Jack, dans celui-ci ouais.
C'est dans celui-ci. Donc Jack qui est un personnage ultra intéressant, évidemment je peux pas oublier Miranda qui est interprétée par Yvonne Stravowski, un des personnages principaux de la série Chuck, qui est moi à l'époque vraiment en termes de modélisation, en termes de comment dire, de mimique du personnage, ouais. M'avait vraiment bluffé à ce moment-là, et je faisais partie des mecs qui avaient qu'une seule envie, c'est d'avoir une romance avec elle, et évidemment comme dans tout jeu BioWare, avoir l'occasion de passer un bon moment ensuite. Il y avait vraiment toute la recette de BioWare, mais avec un mieux en termes d'écriture, un mieux en termes de personnage, un mieux en termes d'enjeu, et une fin de malade mental où tu te disais ok ça va péter dans le prochain. Bon le celui d'après était un peu moins bon, ça fait que 3, mais t'es quand même vachement bien malgré tout. Et puis il y avait des améliorations aussi, on se retrouvait avec beaucoup moins de problèmes en termes de gameplay, beaucoup moins de lourdeur, un peu plus de dynamisme effectivement.
Ce qui était toujours le cas dans le 3, cela dit.
Ouais, bien sûr,
ce qui est un peu moins plus dans le 3, c'était plutôt le côté scénaristique, personnage et tout ça.
Oui, absolument. Ouais. C'était ça tombait un petit peu à plat par moment, et c'était dommage parce qu'il y a des personnages qu'on avait recrutés dans le 2 qu'on retrouvait pas dans le 3, ouais. Et vice versa, ou qui avaient un petit
qu'on
rôle.
Rencontrait, voilà, c'est ça.
Et ouais. Ça, c'était un peu dommage.
Et quand on jouait au 2, on n'était pas obligé d'avoir fait le 1, si je me souviens bien. T'avais là un espèce de petit résumé.
Tu pouvais utiliser ta sauvegarde ou utiliser.
Mais tu pouvais, si t'avais pas moyen. Le premier, tu ouais. pouvais avoir une.
En fait, Miranda t'interrogeait au tout début du jeu pour te dire, bah, à propos, là, à cette époque-là, vous avez fait ça. Et c'était une sorte d'interrogatoire.
Même avec les personnages de. Comment ils s'appellent, ceux qui doivent. Spoil aussi, hein, ceux qui doivent mourir dans le 1, tu dois choisir entre l'un et l'autre, je sais plus comment ils s'appellent.
C'est les humains. Je sais plus qui c'est.
Enfin, même là-dessus,
il y a un mec
et
une meuf, mais je sais plus qui c'est.
Ouais, Kaidan et je sais plus comment. Mais pour revenir sur le 2, pour nuancer un petit peu, enfin j'adore cette saga en fait, c'est peut-être ma trilogie préférée de ces 10 dernières années. Mais vraiment, j'ai fait sur le tard en plus, hein. J'ai fait les 3 après la sortie du 3. C'est vrai que je me souviens quand même que la dimension RPG qui était très présente dans le premier, faut quand même rappeler que BioWare c'est Baldur's Gate, c'est KOTOR, donc voilà, c'est des
vrais RPG.
Des computer RPG comme on les appelle, donc ils sont assez expert dans le domaine. La dimension RPG qui était en retrait dans Mass Effect 2 a un peu déplu, a un peu étonné. C'est vrai que c'est quand même un jeu qui est beaucoup plus action. Mais selon moi, pour le mieux quand même, parce que ça permettait de. C'est vrai qu'il y avait certaines lourdeurs dans le premier.
Bah, dans le premier, il y avait déjà les passages en véhicule. Oh là là, c'était une de ces purges. Alors là, si je me rappelle, dans le 2, c'était juste du scan de planète.
C'est ça. Je crois que c'est comme dans le 3, le 2 et le 3, je crois que c'est scan de planète.
Il y avait les ascenseurs aussi. Dans le premier.
Les ascenseurs dans la citadelle où tu passais une petite demi-heure à attendre que la chose.
Mais ça, pour le coup, ce qui m'avait le plus plu dans le premier, c'était vraiment le côté exploration, je trouve. C'est le premier qui l'aborde le mieux, même si effectivement le Mako, c'est
quand tu repars la première fois dans ton vaisseau et que t'as la galaxie ouverte, tu te dis je vais aller là.
C'est extraordinaire.
T'as un objectif, tu sais pas sur quelle planète ça va se trouver.
Non, mais j'allais dire effectivement le Mako, c'est un peu le Gumi de Mass Effect pour revenir dessus. Mais pour le coup, personnellement, j'aurais du mal à dire quel est mon épisode préféré parce que.
Oh le 2, franchement le recrutement,
le 2,
toute la phase de recrutement, tu te dis putain, mais ils sont costauds.
Effectivement, le recrutement est extraordinaire, mais je trouve que étonnamment, scénaristiquement, on pourrait se passer du 2 en fait. Je trouve que ça avance pas. Tu vois, on inclut l'homme trouble la compagnie dans laquelle il est. Cerberus, on inclut Cerberus qui devient extrêmement importante par la suite dans le 3.
Alors que dans le 1, c'est juste des mecs.
Effectivement, c'est ça. Sa reine, effectivement.
Que tu vas buter sur différentes planètes, dans les mêmes entrepôts qui s'en ressemblent tous.
Mais je trouve que les meilleures scènes, par exemple, la rencontre avec. Je sais plus comment cette espèce d'entité ancestrale dans le premier est juste magistrale, juste avant l'assaut sur la citadelle. Je trouve qu'il y avait quand même plus de scènes marquantes dans le premier. Après, Le premier introduit. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une saga qui se complète en fait. T'as des défauts et des qualités dans chacun des épisodes. Et l'ensemble fait quelque chose d'assez unique. Et on peut le dire, ça reste l'une des sagas de science-fiction les plus développés du jeu vidéo.
Dans les autres, on peut pas baiser Miranda. Donc moi, je tiens à dire, ça n'a aucun intérêt.
Moi j'ai foiré ma romance avec Miranda, donc
c'est vrai.
Ouais,
mais comment t'as fait?
Je sais pas, parce qu'à un moment donné, il y a juste un moment où je crois que j'ai pas accédé à sa requête, et je crois qu'elle.
Elle l'a mal pris.
Elle l'a mal pris, j'ai plus.
Elle est plus que c'est comme ça, ah ouais.
Mais c'est comme ça dans la vie. Hein. Tu foires en général, un truc, ça marche comme ça. Tu en parles qu'entre
Moi, je la trouve un peu pressante par moment, et je suis plus team.
Laisse-moi tranquille,
romantique.
Team, comment elle s'appelle? Lyra de Sony, je t'avoue. Lyra bleue.
La bleue?
La bleue, ouais.
Oui, elle est mignonnette, oui.
C'est un extraterrestre, faut aimer, voilà.
Ouais.
Faut aimer le
faut
sexe
aimer les
avec les
chelous.
Exactement.
C'est oui. Dommage que Johnny Wan ne soit pas là, parce qu'il aurait pu nous faire part
mais
de ses
expériences. Oui, il aurait pu nous parler de Mass Effect, parce qu'il est très.
Ah non, je pensais aux romances avec les extraterrestres.
Ah oui,
personnellement,
romance, d'accord.
Oui, il est très attaché à Mass Effect, Johnny, qu'on embrasse.
Ouais. Johnny Wan adore Mass Effect aussi.
Non,
ouais,
non mais c'est vrai que c'est une saga qui est formidable.
On peut citer aussi Tiger.
Tiger, absolument.
Adore Mass Effect. Vous êtes nombreux à la rédac à mettre cette trilogie très très haut dans votre classement intemporel.
Ça aura marqué la gêne, très clairement, la gêne 7.
Mais d'ailleurs, si vous voulez rejouer à Mass Effect 1, 2 et 3 avec la rétrocompatibilité Xbox One,
c'est possible
de les acheter pour 5€ chaque, hein, je crois, ouais. Un truc comme ça. Tu les achètes 5€ et tu joues directement sur ta Xbox One.
C'est bien 30 heures, 40 heures de jeu minimum. Ouais, hein, donc allez-y. Hein.
Je me rappelle les avoir par
le premier épisode, tu veux dire.
Hein. Ouais, le premier, un peu moins. Le premier, on est peut-être à 20€, mais.
Je me rappelle avoir acheté les 3 sur le PS Store à 10€ il y a 5 ans. C'est. Ouais, c'est assez. Et puis, ouais, tu rentres dans un univers. En fait,
mais sur la PS3, du coup.
Sur la PS3, ouais. Et sur la PS3.
Ils sont parus beaucoup plus tard.
Ouais.
Et avec des problèmes techniques.
Non, le 2 et le 3 sont parus en même temps. C'est non. Le premier qui est. Ah bon? Paru plus tard, le 2
le
et le 3
2 était une exclu Xbox.
Peut-être, oui,
un
peut-être
an,
le 2,
crois.
Effectivement. Ouais. Oui, peut-être.
Je crois que quand la. Attends, alors, je dis peut-être une connerie.
C'est possible, ça t'arrive souvent.
Non, ce serait
moi,
la
je sais
la
tout, toi, tu dis souvent des
non,
conneries.
Non, ce que je sais, c'est que je me rappelle que la version PS3 du 2 était sortie avec un résumé de l'histoire.
Que
n'avait pas eu la version Xbox.
Oui, parce que le 1 est. Par contre, le 1.
Non,
est sorti...
elle a été décalée. C'est sorti plus tard sur PS3.
Parce que le 1 est sorti sur PS3, mais uniquement via le PS Store, en fait. N'est jamais sorti en boîte. Donc voilà. Et voilà.
Bon, enfin bref, grâce à la back compat, comme ils disent, vous pouvez jouer sur Xbox One.
N'hésitez pas, pour l'anniversaire de Mass Effect 2, vous pouvez vous faire un petit plaisir.
Faut vraiment se lancer.
Happy birthday, Mass Effect 2. On va conclure ce podcast, ça y est, on y arrive, avec le hors-jeu désormais. Et bah Philippe, comme on était dans une spéciale Kingdom Hearts quand même, tu voulais nous parler des bouquins Kingdom Hearts chez Sœur d'édition.
Oui, les bouquins Sœur d'édition. Donc
ils sont sur la table.
Voilà, c'est qui est sur la table, le premier volume ici. Donc c'est ce gros pavé là qui ont été rédigés par Georges Grouard, donc le fameux Jay, bon ceux qui ont... Jay pour mieux le prononcer.
Pour ceux qui lisaient gameplay RPG notamment.
Voilà, qui lisaient gameplay RPG à l'époque. Donc ils sont des mines d'informations sur la saga, mais également, donc on l'évoquait tout à l'heure avec Julot hors podcast, mais donc ils évoquent le développement des jeux, pas seulement de Kingdom Hearts, mais également le développement personnel de Tetsuya Nomura, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas beaucoup évoqué la personne jusqu'à présent, mais c'est vraiment Tetsuya Nomura qui chapeaute le tout, même si ce Kingdom Hearts 3, il faut quand même le rappeler, est co-réalisé avec Taiyo Sue. Donc on a l'histoire de développement de toute la saga, jusqu'au 3 sans compter le 3, ça fera l'objet normalement d'un troisième tome à paraître, j'imagine, cette année, en fin d'année sûrement. Ça évoque.
Ça dépend s'il est aussi gros que celui-là. Il va
oui, alors
sortir
celui-ci.
Oui, il faut noter la taille du bouquin quand même.
Oui, 600 pages. Je crois que c'est
juste énormissime.
Je crois que c'est un des sœurs les plus.
J'ai montré la caméra. Il est très volumineux.
Les plus gros de.
Ce ne sera pas étonnant que ce soit le plus gros.
Je crois qu'il y a celui de consacré à Final Fantasy XII, à la saga, à l'univers Rivalis, qui est assez énorme aussi.
On l'a. Je ne crois pas qu'il ait une tranche aussi épaisse.
Assez énorme, et donc voilà. Donc, ça, c'est ce que vous montre Julo à l'écran. Donc, c'est le deuxième tome qui est consacré à, si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'ai pas encore lu le deuxième, j'ai seulement lu le premier, je l'ai seulement feuilleté le deuxième pour pouvoir faire le dossier. Voilà, donc ça décrit en fait, ça revient sur l'histoire des jeux, et on a bien besoin pour ça. Lisez plutôt ça plutôt que les 20 minutes de vidéo que vous a fourni Square Enix qui servent pas vraiment à grand chose.
Il y a donc 592 pages dans ce volume 2.
Voilà, donc quasiment 600 pages qui reviennent sur l'histoire du jeu pour ce tome-là et qui analysent toute la partie symbolique. On sait que la partie symbolique est très importante dans Kingdom Hearts, ce combat entre la lumière et les ténèbres.
voilà. Les sans cœur et
voilà, les sans cœur avec cœur. Mais les déjà, c'est étonnant que tu saches que c'est un sans cœur. Hein,
il est royaliste.
Mais j'ai lu ton,
il a relu ton dossier.
Ah, tu,
ton dossier
oui,
en fait.
T'as relu mon dossier, d'accord. Et donc voilà, c'est ça fourmille d'informations. Donc moi, pour l'instant, je n'ai lu que la partie, enfin, lu vraiment bout à bout la partie développement qui est extrêmement.
C'est-à-dire, pour l'instant, j'ai lu la préface. Voilà. Voilà.
Non, mais la partie développement qui concerne quand même le premier tome. Donc c'est voilà, c'est le premier tome est un peu moins gros. Ça reste quand même 400 pages. Donc faut quand même les lire. C'est extrêmement intéressant et ça retrace voilà le parcours de Tetsuya Nomura depuis les débuts de son développement chez Squaresoft, donc
FF5
je crois.
FF5
il était déjà
cara designer
quand tu vois comment physiquement il a changé ce mec, c'est incroyable.
Il est devenu un peu bouffi,
il a arrêté de se teindre les cheveux,
il a pris l'âge. Et donc oui, effectivement, sur Final Fantasy 5 je sais plus exactement ce qu'il
a fait. Il a fait du cara et des monstres au départ.
Ouais,
Mais
je crois qu'il a fait du debug. Hein. Je crois qu'il a commencé comme tout le monde à faire du debug pour au tout début des jeux. Et puis effectivement, il a eu très très vite. On lui a passé la, il a eu le cara sur à partir d'FF7, mais aussi une...
FF6 aussi. Hein, c'est à lui FF6, qu'on doit oui. mon perso préféré.
7 heures peut-être, non ?
Ouais, exactement.
7 heures, ouais, 7 heures. Et je crois qu'il a fait aussi Shadow. Donc on reconnaît la patte de Nomura dans ce genre de personnage. Je crois que c'est le personnage ultime de EDA qui devait apparaître dès le 5. Donc il a créé visuellement le personnage d'EDA pour le 5.
La sorcière du 8, c'est ça ?
La sorcière du 8 est en fait qu'il a gardé pour finalement.
Tu veux dire qu'il recycle
ses
propres idées,
allègrement.
Tu veux dire qu'il utilise beaucoup aussi des blonds avec des cheveux hérissés,
oui,
peut-être ?
Exactement.
Tu vois, exactement. C'est bizarre, je m'étais jamais posé la question.
EDA, extraordinaire ce personnage.
Extraordinaire. EDA, puis bon, il n'y a pas qu'EDA, il y a aussi, même si j'ai pas joué à la saga. Brea, j'ai oublié son prénom de Parasite.
Aya Brea, de Parasite Eve,
qui est assez...
c'est vrai, c'est lui.
C'est lui.
Quel jeu extraordinaire, le premier Parasite Eve, jamais sorti chez nous. Malheureusement,
parce que je crois,
on a eu que le 2 malheureusement.
Je sais pas, c'est toi qui as testé Subara Shiki, comment ça s'appelle, The World Ends With You.
World Ends With You. Oui, d'ailleurs, j'ai fait quelque chose pendant ce podcast. Thomas aura une surprise. D'accord. The World Ends With You, qui est un jeu extraordinaire.
Faut savoir que ce jeu l'envers, enfin ce qui explique très bien Jay dans le premier tome, notamment l'envers vraiment de Kingdom Hearts. C'est que ça a été développé exactement en même temps que certains épisodes portables, notamment de Kingdom Hearts, et que c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve les personnages de The World Ends With You dans un des épisodes Kingdom Hearts. Dans l'épisode 3DS au tout début. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est moi qui n'avais pas joué au jeu, qui n'ai pas encore joué au jeu à The World Ends With You.
C'est un jeu, je me souviens. J'avais un peu de fièvre quand j'ai commencé le jeu et je dois reconnaître que le côté complètement
What the fuck, non ?
Ouais, ça m'a pris.
C'est à Shibuya, c'est ça ?
C'est ça, c'est à Shibuya. Tu joues un gamin qui se croyait vivant mais en fait il est mort et il a des trucs à faire pour aller au paradis ou je sais pas où. Et c'est très très spécial au début, mais je crois que si t'as un peu bu ou que t'es un petit peu dans le gaz, tu rentres vraiment parfaitement dedans et tu comprends un petit peu.
Ouais, mais faut avoir bu pour il y a quoi, c'est 30
heures non plus, parce que le système de combat est un peu compliqué.
Sachant que pour atteindre la première fin, je crois que c'est 25 heures, et qu'ensuite ça continue après. Tu te dis ah c'est fini, mais non en fait c'est pas fini du tout.
Ouais,
faut que tu continues encore après.
Ah, merde.
Et je crois qu'il y a même encore un autre personnage caché encore à récupérer dans la version Switch.
Oui, j'avais pas compris. Il y a un nouveau personnage dans la version Switch avec un petit bout de scénario additionnel.
Voilà. Mais en fait tu crois avoir fini, mais en fait t'as pas fini.
D'accord.
C'est très très spécial. T'as l'impression vraiment d'être dans un rêve avec ce jeu.
Le titre japonais est un peu chelou. C'est Subarashi Konosekai, un truc comme ça.
Subarashi Konosekai.
C'est chelou. Ça veut dire quoi?
C'est un monde merveilleux.
C'est un monde incroyable.
Ah, What a Wonderful World. C'était ça le vrai nom. C'est vrai. Je me rappelle.
Et justement, c'est ce qu'explique Jay, c'est que ça fait directement écho à Kingdom Hearts. Parce que it's a Wonderful World, ça fait un peu penser à It's a Small World, etc. Il y a plein d'échos comme ça. Donc voilà, donc t'as plein de détails comme ça de développement qui sont extrêmement intéressants. Et je vous invite à les lire. Ça vous prendra énormément de temps, mais c'est passionnant. Et si vous êtes fan, il faut quand même être fan de la saga, faut le reconnaître. Si vous êtes fan de la saga, si vous suivez les épisodes depuis tant d'années, je pense que voilà. En attendant la sortie du troisième tome, qui normalement, il l'évoque lui-même dans le livre, dans le premier tome.
Mais est-ce qu'avant il y aura pas un épisode 1,7 ou
le livre 1,7
1,7,2.
Ouais, voilà, divisé par 4. Voilà.
Ah, il fallait la placer pour terminer. Mais voilà.
Ouais, merci Philippe pour ce hors-jeu. Donc on vous recommande la lecture des deux livres, La Légende Kingdom Hearts, tome 1, tome 2, Univers et Décryptage. Bon, ce qui concerne le tome 2, 600 pages et 400 pages pour le premier.
Ça fait comme 1000 pages. Hein,
ah, ça fait pile poil 1000 pages, c'est parfait.
Si vous, si vous voulez vous défendre dans la rue avec, il n'y a pas de problème. Vous le mettez dans votre sac et pas
voilà. Cambrioler éventuellement un magasin. Ça voilà. Sert à tout.
Vous pouvez tout faire dedans.
Très bien pour faire le point. On va dire premier niveau, ton dossier sur Kingdom Hearts. Ouais. Deuxième niveau, on engage les livres.
Je l'évoquais d'ailleurs dans mon dossier. Voilà.
Merci Philippe.
De rien, je t'en prie.
Et ça conclut donc ce podcast numéro 484, si je dis pas de bêtises, c'est bien
ça. Il y a eu un petit moment d'hésitation, mais c'était bien ça. Ouais.
On vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Sachez-le pour ceux qui attendent les Gameblog Awards depuis 3 mois, qu'ils arrivent. Cette semaine, figurez-vous.
C'est vrai.
Et là, je prends Poufy à témoin. Il est là. Et évidemment, ça sera après cette semaine. Logiquement, je dirais jeudi ou vendredi. Mais après, advienne que pourra. Hein. Mais on vous les avait promis. Ils arrivent.
Il fallait digérer dans une vidéo incroyable
où Philippe jouera un rôle très important dans les ressorts comiques.
J'ai honte.
J'ai tellement honte encore. Je vais être surpris.
Non, mais j'ai tellement honte. Horrible.
Ah, mais non, tout va bien. Alors, tout ça pour vous. Si vous voulez un petit apéritif comme ça, vous pourrez y repenser plus tard. Un peu comme avec les épisodes précédents de Kingdom Hearts, dont tu as eu les réponses plus tard. Je vous le dis, Philippe a pris une tisane avant de commencer ce podcast. Voilà. C'est tout. Tout ce que je dirais. Je n'irai pas plus loin. Ok, on fait ça. Allez,
tu me le rends bien.
À bientôt, donc, pour les Gameblog Awards et la semaine prochaine, le retour des podcasts de Gameblog.
Ciao.
Des bisous.
Salut.
Ciao. Salut.